Juste un tout petit peu. Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours. En fait, on a juste fait quelques lignes la semaine dernière sur le dans le chapitre 16. Alors, le chapitre 16, en fait, comme on a expliqué la semaine dernière, c'est une suite directe au chapitre 15. Dans le chapitre 15, on a expliqué qu'il y avait deux types de Bédonis, deux types de juifs qui servent à Kadosh Baruch Hu. Il y avait en fait ceux qui servent Dieu et celui qui ne le sert pas mais qui l'a déjà servi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a expliqué qu'il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui, dans leur jeunesse, ils ont dû se battre contre leur Yetzarara, mais après, avec le temps, ils ont pris le pli, et du coup, c'est même plus un combat. C'est-à-dire qu'au jour le jour, ils se battent pas avec leur Yetzarara. C'est un acquis. Il y a des gens que c'est même pas dans leur jeunesse. Ils sont jamais battus avec leur Yetzarara. Parce qu'ils sont nés, comme on avait expliqué, avec une nature de quelqu'un, pas d'endormi, mais bon, de quelqu'un de plutôt calme, de plutôt froid. Et que bon, avant de le faire, de l'encourager à faire une Avera, c'est très compliqué. Il y a des gens comme ça. C'est une première catégorie. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a une deuxième catégorie dans laquelle la majorité des personnes rentrent, que en vérité, leur Yetzarara les attaque constamment. Et qu'il n'y a rien qui est acquis. C'est-à-dire que même quand tu crois que c'est acquis, ben, un an plus tard, 10 ans plus tard, le Yetzarara est pour revenir à la charge. Des choses que tu croyais déjà réglées, le Yetzarara revient et te les ramène. Et là, on a expliqué que nous, quand on voit les deux, quand on voit ces deux types de personnes, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire, ben, le premier, il a de la chance, le deuxième, le pauvre, hein, mesquine, le deuxième, le pauvre. Il a pas de chance, parce que voilà, il se lance une affaire, chaque fois qu'il se lance, il se casse la figure tous les quelques jours, toutes les quelques semaines, toutes les quelques années. On a envie de dire, mais ça y est, c'est fini, il y en a marre. Là, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit qu'en vérité, quand on voit par rapport à la mission qu'on a sur Terre, le deuxième, il sert à plus que le premier. Il sert plus à quelque chose que le premier. Parce que le premier, c'est une machine. Quand on va lui poser la question, après 120 ans, on va lui dire, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il a rien fait, lui. On lui a donné une machine et elle a tourné toute seule, c'est tout. On lui a donné une machine de quelqu'un de calme, de quelqu'un d'endormi, de quelqu'un qui n'est pas intéressé par les fautes. Et il n'a pas fauté, c'est tout. Est-ce que lui, il a fait quelque chose? Est-ce que lui, il a fait un effort? Non, il n'a pas fait d'effort. Alors que le deuxième, celui que sa machine qu'on lui a donnée est une machine qui veut faire d'Averot, qui est intéressé à faire d'Averot, et que dans sa vie, il s'est battu plusieurs fois pour ne pas faire d'Averot. Quand il va arriver après 120 ans, mis à part le fait qu'on fera le compte des mitzvot et d'Averot qu'il a fait, quand on lui posera la question, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que toi, tu as fait dans ta vie? Il pourra donner la réponse. Et pour en dire, voilà ce que j'ai fait. Ma machine me poussait à aller vers là, et moi je suis allé à contre-courant. Ça veut dire qu'il a montré qu'il servait à quelque chose, qu'il n'était pas juste, qu'il allait pas juste avec le courant. Ça veut dire que je pense qu'il y a un très grand chidouche ici, qu'on va développer d'ailleurs dans le chapitre suivant, qui dit que quand on va avec le courant, c'est bien et c'est pas bien. Je vous donne un exemple. D'un côté, on voit que les gens dans la vie qui vont à contre-courant, on n'aime pas trop. Par exemple, quand vous êtes dans une école, un gosse qui est à contre-courant, c'est-à-dire le professeur, il dit ça, bah, le gosse, il dit le contraire. Est-ce que les directeurs, est-ce que les profs, ils aiment un gosse comme ça? Évidemment qu'ils n'aiment pas. On n'aime pas quelqu'un qui est à contre-courant. Donc, on a envie de dire que voilà, le premier Bédoni, c'est le meilleur. Celui qui est bon, tu l'as appuyé sur play, ça avance et c'est fini. Tant que tu n'arrêtes pas, il ne s'arrêtera pas. L'autre, il est à contre-courant. Mais seulement, le chidouche de ce père et le Tania qu'on a fait le chapitre 15, c'est qu'on voit qu'en vérité, pour réellement avancer dans la vie, il faut savoir être à contre-courant. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas à contre-courant, le jour où le courant le poussera vers le contraire, maintenant il a le courant le pousse vers la Torah Mitzvot, alors il va faire Torah Mitzvot. Et le jour où ses copains ils vont quitter la Torah Mitzvot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre le courant aussi. Alors que s'il a appris à avoir un point de vue autonome, à réfléchir par ses propres moyens, et ben là automatiquement ça lui apprendra à réfléchir lui-même, penser qu'est-ce que lui il veut et pas qu'est-ce que ses copains y pensent. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans les discours du rabbi, quand il parlait aux enfants, quand il parlait aux éducateurs, quand il parlait aux parents. Il encourageait beaucoup les enfants donc et les parents à pousser leurs enfants à réfléchir par leurs propres moyens. On ne pas suivre le courant. Je dis pas qu'il faut s'arrêter, je dis pas qu'on va arrêter de faire le temps de shalom. Mais j'ai habitué un enfant à se poser les questions lui-même, pas à suivre bêtement le courant, à se poser les questions. Comme une fois, par exemple, il y avait une fois, en rapport avec l'actualité, parce que bon, l'actualité, c'est la paracha de la semaine. Et on raconte qu'une fois, il y avait comme ça, un enfant qui était dans une école religieuse, à New York, jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. Et à l'âge de la bar mitzvah, en fait, il y avait ceux qui partaient à la yeshiva. Bon, ils partaient à la yeshiva. Il y avait les autres qui partaient dans des écoles, on va dire, des écoles générales. Et ce qui s'est passé, c'est que, justement, il y avait un de ces jeunes-là qui devient bar mitzvah. Et comme il est devenu bar mitzvah, donc il est parti voir le rabbi. Il est parti voir le rabbi avec son papa pour demander la bracha pour la bar mitzvah. Le rabbi lui dit, qu'est-ce que tu fais après la... Bonsoir. Il lui dit, qu'est-ce que tu comptes faire après la bar mitzvah? Alors, il lui dit, ben, je compte partir dans tel et tel collège. Alors,
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors, le rabbi lui pose la question. Il lui dit, mais pourquoi tu vas dans tel collège? Pourquoi tu continues pas à la yeshiva? T'as plein de copains qui continuent à la yeshiva. Alors, il répond, il dit, parce que mes copains, mes copains à moi, enfin ceux avec qui je suis proche, ils vont au collège. Alors Rabbi lui répond comme ça. Il lui a dit, tes copains, c'est qui? Il a dit, mes copains, c'est ceux qui sont dans mon bloc. Vous savez, aux États-Unis, c'est, ça marche par des blocs. Donc les blocs, bon, celui qui habite dans mon quartier, quoi, c'est, voilà, c'est mes copains. Alors le Rabbi lui pose des questions. Il lui dit, tu sais pourquoi Avraham était Avraham? Tu sais pourquoi Noir était Noir? Tu sais, dans leur génération, tout le monde était idolâtre. Personne croyait en Dieu. Tu sais pourquoi eux, ils ont marché? Parce qu'ils n'ont pas écouté ceux de leur bloc qui leur racontaient autre chose. Il a fini la yeshiva. Bon, évidemment, c'est... il a pris du temps pour l'expliquer. Plein comme ça, très souvent. Ça veut dire qu'il faut habituer un enfant à ne pas suivre le courant, à aller à contre-courant, à se poser des questions. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une lacune qu'a ce deuxième Benoni. Au contraire, c'est même une qualité qu'il va développer sa propre personnalité.
Ouais, mais quelquefois, le courant qui est choisi, nous-mêmes, on ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais courant. Bon,
Il faut constamment se remettre en question. Pas pour dire que j'arrête ce que je fais, mais constamment se remettre en question. On est obligé. Je vais vous dire plus que ça. Même Maïmonide, il dit même des choses qui sont taboues normalement chez nous, comme par exemple croire en Dieu, que Dieu existe. Maïmonide, il dit il faut tout remettre sur le plateau. Seulement avec la condition qu'avant de poser la question, tu te dis que quoi qu'il en soit, peu importe les conclusions que j'arrive, je sais que Dieu existe. Mais un homme, il doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu représente dans ma vie? Est-ce que c'est réellement ce qu'on m'a toujours raconté? Est-ce que j'ai pas mal compris? Il faut remettre en question, parce que c'est pas stable, bêtement, ça marche pas. Ça, c'est le deuxième Benoni, celui qui remet constamment les choses en question.
J'ai une question un peu basique.
Oui.
Tu veux dire, ça fait déjà longtemps qu'on fait les dernières. Le Yetzarara, c'est quoi? C'est un malheur? C'est une personne? C'est quoi?
Non, le Yetzarara, c'est un penchant qui est en moi.
C'est dans notre Neshama.
C'est en moi.
C'est pas une création.
Non.
Pourtant, on dit que le jour où il a créé le Yetzarara, oui, et après il va le tuer.
Oui, parce que si tu veux, il a créé le Yetzarara, ça veut dire que le Yetzarara représente, si tu veux, c'est l'ambassadeur du mal qui se trouve en moi. En moi, j'ai un ambassadeur du bien, un ambassadeur du mal. Et les deux, chacun, il essaie de défendre son point de vue.
C'est un ambassadeur du mal qui est en moi.
En moi, tout est en moi.
Je pensais que le Yetzarara, c'était quelque chose que tout le monde avait. Non.
Chacun a son Yetzarara, et c'est un Yetzarara personnel, individuel. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une erreur. Hein. Les gens quand ils font Les gens quand ils font une avera, ils disent oui, c'est à cause de mon yitzhara. Pourquoi quand il fait une mitzvah, il dit c'est grâce à mon yitzhartov.
Non, d'accord.
Il dit c'est moi qui a fait. C'est la même chose. Il a fait une avera, c'est moi qui a fait, c'est pas l'autre. Quand il dit yitzhara, c'est moi. Yitzhartov, c'est moi. C'est-à-dire en fait, c'est comme ça. C'est très simple. En tout cas, en chassidut, on explique comme ça. J'ai un bon penchant, un mauvais penchant, mais ça, c'est des choses qui sont innées en moi, que je ne fais rien pour ça. Et la seule marge que j'ai pour moi, c'est la décision. Qui j'écoute? Est-ce que j'écoute l'un? Est-ce que j'écoute l'autre? Et c'est cette marge de décision, si vous voulez, de gouvernail, c'est ça me donne le gouvernail à moi. Est-ce que je bifurque à droite ou à gauche? Mais tout le reste, qu'est-ce que pense le Yetzertov? Qu'est-ce que pense le Yetzerara? On maîtrise rien du tout. Et chacun a son Yetzerara qui est adapté par rapport à son Yetzertov. C'est-à-dire qu'il a deux moteurs qui sont parfaitement équilibrés l'un par rapport à l'autre. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Hein. Enfin, on reprend ça. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai posé la question.
Oui, parce que pour moi, au fait, Yetzarara, dans ma tête, on dit ou à Satan, ou à Yetzarara, ou à Malach HaMavet.
Oui, parce qu'ils représentent tous la même chose. Ils veulent tous faire tomber l'homme. Le Satan, l'ange de la mort, etc. Ils veulent tous faire tomber l'homme.
Je pensais que c'était un Malach, en fait.
Non, c'est arrivé en moi.
Qui vient, en fait, dans mes pensées, entre guillemets.
Quand j'ai une pensée tordue qui vient dans ma tête, d'où elle vient, cette pensée tordue?
C'est ce Malach qui me l'a mis.
Non, c'est moi qui m'a mis cette pensée dans la tête. Seulement, c'est en moi, c'est dans moi. Seulement, j'avais une marge de décision de décider de ne pas écouter. Et ça, finalement, ça, c'est le travail du Benoni. Ça, il faut comprendre que ça, c'est le travail principal du Benoni. Il faut comprendre que le livre du Tania s'appelle Sefer Shel Benonim. C'est un livre de Benoni. On ne parle pas des tzadikim ici. Un tzadik, c'est un autre registre. Nous, on parle à des Benoni. On s'adresse à un Benoni. Le Benoni pose la question. Il vient voir son rabbi. Il lui dit, dites-moi, c'est quoi mon but sur terre? À quoi je sers sur terre? À quoi je sers? On va lui donner une réponse, pas 15 réponses. Une réponse, ce qu'on va dire tout de suite. On va lui donner une réponse, on va lui dire ton but, c'est de maîtriser au maximum ton âme animale. C'est tout. Ton but, c'est de maîtriser au maximum ton yetzara. Ça, c'est ton but. Si tu as répondu positif à cette question, tu as gagné. Donc vous comprenez qu'en vérité, c'est-à-dire, M. Vignetta me disait, on a l'impression qu'on parle ici d'un... Enfin bon, je modernise un peu la question. On a l'impression qu'on parle d'un Superman, etc. Non, c'est pas un Superman. Effectivement, le portrait qu'on dresse ici, c'est une personne qui est irréprochable sur toute sa vie. Mais quelque part... Sur quoi on se bat, nous, dans la vie de tous les jours? On se bat avec nos trois caractères. J'ai un caractère avec lequel je suis né, je me bats avec. Je me bats avec mon Yetzarara. Et donc, ça, c'est mon travail.
Oui, c'est ça, mais c'est un combat en permanence.
En permanence.
C'est pourquoi je dis, c'est quelque chose, ça, qui ça s'adresse à un robot pourvu d'une intelligence artificielle, avec des capteurs et des neurotransmetteurs, éventuellement
capteurs électroniques, quoi.
Des trucs, voilà. Et de telle sorte à ce que, bon, ben voilà, il a le plus, le langage binaire, il a le plus et le moins.
Compris.
À dire, bah, ça c'est péché, il va vers le péché, ça c'est autorisé, pas surpesé, autorisé. Mais quelqu'un qui est de chair et de sang comme ça, comme nous, oui. c'est très difficile de suivre ça. Parce qu'il y a des tentations toute la journée, on est tout le temps.
Il va, oui.
Le but n'est peut-être pas de faire un parcours sans faute, le but est de réussir à s'améliorer chaque année.
Alors, je voudrais répéter un point que j'ai dit la semaine dernière. D'accord. On ne va pas tenir des livres.
Ouais, je passe devant une pâtisserie, je ne peux pas manger. Je passe devant un beau truc qui me plaît, je ne peux pas regarder parce qu'on dit il y a etc. là, il y a cette tombe là.
Monsieur Benita, on ne joue pas pour gagner.
Benita, on joue pour jouer.
Vous comprenez ça?
Ben si, si je joue, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Si je sais que je vais perdre, je joue pas.
D'accord, je vous donne un exemple. Des fois, vous passez devant un bar, vous voyez des gens en train de jouer, je sais pas, aux cartes, des trucs comme ça. Bon, il y en a un qui va gagner. Qu'est-ce qu'il va gagner?
Bon,
attendez, qu'est-ce qu'il va gagner?
Ben, il va gagner de l'argent, sans doute.
Hein? Bon, et si c'est un jeu avec arrière, il y a des clopinettes à gagner.
Le plaisir, la
d'accord, qu'est-ce qu'il a gagné la joie de jouer. Non, mais attendez, écoutez bien ce qu'il a dit.
La sensation, jouer, voilà.
Ça veut dire qu'il y a des jeux dans lesquels le but c'est de gagner. Et si j'ai pas gagné, j'ai perdu. Il y a des jeux dans lesquels le fait même que je jouais, c'est déjà un gain.
Ça ou ça. Le kiff.
Après que j'ai gagné ou j'ai pas gagné, c'est une autre question.
C'est quelle page maintenant?
D'accord, page 212. C'est une autre question. C'est ce qu'il te dit ici. Le tzadik, il joue pour gagner. Le Benoni, il joue pour essayer de gagner au maximum. Mais même s'il a pas toujours gagné, le fait même qu'il a joué, c'est déjà extraordinaire. Le fait même qu'il était sur le terrain, c'est déjà extraordinaire. Tant qu'il n'est pas hors piste, c'est déjà extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Ça veut dire comme ça. Vous avez dans une, je vais vous donner un exemple. Vous avez des fois dans une course, d'accord? Un bonhomme qui, vous avez des fois un coureur, je sais pas, ça peut être dans les voitures, des trucs comme ça, qui sait pertinemment qu'il n'arrivera pas le premier. C'est sûr qu'il n'arrivera pas le premier. Il dit, mais pourquoi tu cours dans ce cas-là? Il sait pertinemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que lui. Pourquoi il court alors? Alors les mecs, ils vont dire, oui, j'espère un jour être le premier. Et si maintenant il pense qu'il sera jamais le premier, il va arrêter de courir? Qu'est-ce que tu penses? Pas spécialement. Il y a un qui va jouer parce qu'il va gagner, et d'autres qui vont jouer pour jouer. Le fait même de jouer, c'est déjà quelque chose de bien.
Mais là, c'est un.
Eh ben, c'est la même chose.
C'est un jeu en permanence.
C'est la même chose avec le Benoni. Le Benoni.
Je vais jouer aux cartes, je vais jouer pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures.
C'est
ça. Et puis ça y est, grand malheur.
Le Benoni, son but, c'est d'essayer de maîtriser au maximum son état. Bon, on va avancer un peu dans les mots. Vezé, Klal Gadol, Avodat Hashem, la Benoni. Donc, il s'agit ici d'un grand principe, Avodat Hashem, dans le service de Dieu, la Benoni pour les Benoni. Aïkar ou l'imshol, j'accélère un peu le premier ligne, on l'a fait la semaine dernière. Aïkar ou l'imshol, velishlot à la teva chez Bechala la semaine dernière.
Vous êtes sur 212 là,
c'est ça? 212. L'essentiel chez un Benoni, c'est quoi? C'est de réussir à maîtriser et dominer la nature qui est du côté gauche. Ça veut dire son âme animale. Aliédé or Hachem, améhir le nefesh et le kitch et mémoire. Comment je vais maîtriser sur mon âme animale? Je vais maîtriser mon âme animale. Dieu m'a donné un outil qui s'appelle la lumière de Dieu. C'est quoi cette lumière de Dieu? C'est la Torah et la Mitzvot. Ça veut dire comme ça. Il faut comprendre quelque chose de très important qu'on va développer dans la suite. La Gemara, elle te dit comme ça. Elle te dit, si ton Yetzara t'embête, et que tu vois que tu n'arrives pas à le calmer, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ton Yetzara?
Un mot
de
Torah.
D'accord? Tu l'amènes à la synagogue, tu l'amènes pour écouter un mot de Torah. En quoi un mot de Torah, ça va arrêter ma pulsion? En quoi ça va arrêter? Parce qu'en vérité, quand je vais écouter un mot de Torah, je vais amener la lumière de Dieu dans ma neshama. Et cette lumière de Dieu que j'amène dans ma neshama, c'est elle qui va m'aider dans la vie de tous les jours. Ça veut dire, c'est quoi le travail du Benoni dans la vie de tous les jours? Le travail du Benoni dans la vie de tous les jours, c'est d'essayer d'injecter un maximum de Torah et de lumière de la Torah et de la Tfila dans sa vie pour au maximum repousser son Yitzhara. Est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Je sais pas. Mais en tout cas, il va essayer au maximum. Grâce à ça, Velishlot à la lèvre. Grâce à ça, il va vouloir dominer sur son cœur. Kshemit bonen, bemocho, bigdulat, ensof varuchu, leolid, mi binato, ruach da'at, virat Hashem bemocho. Là, c'est ça qu'on s'arrête sur la semaine dernière. Là, maintenant, je vais commencer à développer. Là, il va expliquer maintenant comment fait le Benoni concrètement quand son Yetzara, il amène une grosse pulsion dans la tête. Et bon, on peut pas constamment dire au Yetzara, assour, 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 assour. Ça, ça marche quand on est petit. Après, quand tu grandis, Yetzara propose une avéra, tu dis non, je la fais pas. Pourquoi tu la fais pas? Assour. Est-ce que ça marche, ça? Évidemment, ça marche pas. Assour, bon, ok, assour, c'est assour, c'est assour. D'accord, mais ça me parle pas au moment où tu m'interdis la avéra. Alors là, c'est un grand chidouche qui va expliquer dans ce pérec-là, dans ce chapitre qu'on va devoir développer, qui dit qu'en vérité, si le Yetzara te propose un désir, un plaisir, t'es obligé de contrebalancer en créant un plaisir dans le sacré aussi. Ça veut dire, si par exemple, mon centre d'intérêt est malheureusement attiré vers le mal. Pour contrer ça, à moyen et long terme, je suis obligé de créer un centre d'intérêt dans le bien. Qu'est-ce que ça veut dire créer un centre d'intérêt dans le bien ? Alors c'est très simple. Tout ce qu'on a dans la vie autour de nous, c'est avec nous David, tourne autour de l'amour et de la crainte. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Par exemple, pourquoi je vais faire une bêtise ? Pourquoi je vais faire une avéra ? Parce que j'aime la chose que je vais faire.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir. Donc le plaisir, c'est de l'amour.
L'amour.
D'accord ? Pourquoi je vais, des fois, m'empêcher de faire quelque chose ? Parce que j'ai peur.
La crainte.
J'ai la crainte. Alors, je peux avoir la crainte de ma femme, je peux avoir la crainte de quelqu'un qui m'a regardé, je pense à rien, mais c'est une crainte. Je peux avoir la crainte de perdre de l'argent, c'est la crainte. Ça veut dire que ce qui fait avancer l'homme dans la vie, c'est toujours le sentiment d'amour et de crainte. Le problème, c'est quoi ? C'est que instinctivement, on n'a pas l'amour et la crainte de Dieu. On l'a peut-être en nous, comme on a expliqué avant, mais concrètement, dans la pratique, on ne l'a pas. C'est-à-dire, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi tes centres d'intérêt, qu'est-ce que tu aimes et de quoi tu as peur, il va dire j'aime mes plaisirs, j'ai peur de perdre l'argent, j'ai peur de perdre ci, j'ai peur de perdre des choses matérielles. Donc concrètement, quand on lui propose une avéra, c'est quoi une avéra ? Une avéra, c'est l'amour du mal. Comment tu contrebalances ça ? Tu vas lui dire c'est assourd. Quand tu dis c'est assourd, qu'est-ce que tu as fait ? Tu essayes de lui créer une crainte. Alors au début ça fait peur, mais après ça fait pas peur parce que bon, il voit qu'il fait l'avéra, il s'est rien passé. Donc bon, ça lui fait plus peur. Donc, puis ça lui fait plus peur. Comment tu peux faire pour contrebalancer cet amour qu'il y a dans le mal ? La seule manière, te dit l'Admor HaZaken, pour de contrebalancer le Yetzer Hara, c'est en créant un amour et une crainte dans le bien. Très important, ça, c'est très important ce qu'on a expliqué ici. Et ça, vous pourrez l'appliquer aussi dans l'éducation. Ça veut dire que dans tout, on peut appliquer ça, dans l'éducation des enfants. Que pour faire avancer quelqu'un, la peur, faire peur à quelqu'un, ça marche qu'à court terme. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ça marche qu'à court terme ? Parce que ce qui me fait peur aujourd'hui, demain, ne me fait plus peur. Et on rentre, vous vous rappelez, on avait parlé un peu sur ça avant Yom Kippour, quand on rentre dans le système de la peur, on est toujours obligé d'aller dans la surenchère. Parce que ce qui me fait peur aujourd'hui ne me fait pas peur demain. Donc tu comprends, ça veut dire par exemple, tu vas dire à ton enfant, tu fais une bêtise, d'accord, je vais te crier. Bon, ça ne lui fait plus peur. Je vais lui donner une claque, ça ne lui fait plus peur. Je vais décoller une droite, ça ne lui fait plus peur. Après, à la fin, où on va comme ça ? Ça ne marche pas. D'accord ? Tu attends, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ce qui est basé sur la crainte, forcément, est limité. Forcément, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Alors, comment concrètement on peut aider quelqu'un à contrer son Yetzer Hara ? Comment on peut contrer son Yetzer Hara ? La réponse qui va t'expliquer ici, c'est que tu dois faire un effort pour générer dans ta tête l'amour et la crainte de Dieu. Très bien. Seulement, il y a un problème. Comment je génère dans ma tête l'amour et la crainte de Dieu ? Vas-y, Abraham, qu'est-ce que tu en penses ?
On a dit la semaine dernière, l'amour, c'est en pensant au Gdolot d'Hachem.
D'accord, etc. Voilà. C'est le sondage qu'on a fait la semaine dernière, oui.
Et la crainte de Dieu, bah, il suffit de lire tout le parashat Kitavo.
Alors, comment je génère dans ma tête l'amour de Dieu ? Je pense à la grandeur de Dieu ? Donc concrètement, ça veut dire que j'ai fait quoi ? Voilà, ce soir, je rentre chez moi à la maison. D'accord, j'ai mon Yetzer Hara qui me propose une avéra. Qu'est-ce que je lui réponds ? À part lui répondre non.
Je lui réponds, je vais la faire, mais les Shem Shamayim.
C'est la même réponse que Michael. Je prends un livre de Torah.
Qu'est-ce que je lui réponds ?
Qu'est-ce que
je lui réponds ? Je vais lui dire, il faut aimer Dieu. Il me dit, mais je l'aime pas Dieu. C'est pas que je l'aime pas, c'est que ça me dit rien, ça me parle pas. C'est pas méchant.
Non, il faut créer.
D'accord.
Il faut se créer une activité. Par exemple, je sais pas, j'ai un Yetzer Hara sur, je prends un quel qu'il soit.
D'accord.
Donc je veux me créer, par exemple, un cours de Torah, n'importe quoi, une fois par semaine.
Oui.
Et je sais que ce cours, par exemple, va me permettre de tenir la semaine. S'il ne permet pas de tenir la semaine, je dis bon, finalement, j'ai pas tenu la semaine parce que je peux dire alors je peux peut-être me vanter en disant ouais, je suis un mec bien, je vais à un cours, qu'est-ce que je vais aller faire sécher là.
D'accord.
C'est un peu d'orgueil peut-être, mais si ça me permet.
Ça c'est bien, c'est un bon point ce que tu dis.
Mais si ça permet de casser le Yetzer Hara, pourquoi
pas. Par l'orgueil, pourquoi pas.
Et entre parenthèses, souvent quand après chacun comment il le ressent, mais souvent quand on va à un cours, on se sent bien après, on se sent comme un peu apaisé. Alors si cet apaisement, supposons qu'il dure deux jours. Et que le troisième jour, je suis retenté, ça va pas. Alors je me dis, bon, bah, peut-être que dans ce cas-là, je vais peut-être me trouver un cours le mercredi.
D'accord.
J'ai essayé d'organiser sa vie pour.
Donc pour créer un nouveau centre d'intérêt.
Voilà, créer un nouveau centre d'intérêt.
J'ai entendu. Mais concrètement, là, je pose une autre question. C'est très bien ce que tu dis. Mais je pose une autre question. Je dis, comment créer en moi l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, si je ne l'ai pas ? D'accord ? Alors la réponse est très simple. C'est qu'en vérité, tout vient par. Écoutez bien la réponse. Tout vient. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Personne n'a pas l'amour. Il a rien contre Dieu, mais bon, pour aimer quelque chose, il faut le connaître. D'accord ? Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas le café, tu lui dis aime le café. Tu connais pas ? Voilà, imaginez maintenant par exemple, d'accord, quelqu'un, il dit j'aime pas le vin. Je sais pas, moi, tu me donnes un vin à 5 euros, tu me donnes un vin à 100 euros, je vois pas la différence. Comment tu vas lui apprendre ce que c'est du vin ? Comment tu vas faire ? Eh bien, j'y viens. Tu vas te faire goûter.
L'initier.
Ah, très bien. Comment on va l'initier? Comment on va l'initier?
Eh ben, en lui faisant goûter.
On va lui faire goûter. Parce que t'as beau lui raconter les drachotes toute la journée, en lui disant, ça c'est un vin, d'accord? Château Lafite de je sais pas quelle année, ça c'est un vin de telle année, ça c'est un telle année. Ça lui dit rien. Ah, il oui. en a rien à faire.
Faut lui
ça lui parle pas. D'accord? C'est oui, tu vas lui parler de la robe et du truc. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte une robe? On parle d'un vin maintenant. Il va se moquer de toi, le bonhomme. D'accord?
Moi, je parle.
D'accord? Alors, comment on fait?
5 euros, 200 euros.
Non, moi non plus, j'ai pas de goût dans ça. Alors, comment tu fais? Comment tu fais pour lui apprendre le goût? La réponse, c'est que pour lui apprendre le goût, d'accord? Pour qu'il ait le goût, il faut lui apprendre à avoir le goût. Quand tu vas lui apprendre à avoir le goût, automatiquement, il aura le goût. Comment tu vas lui apprendre à avoir le goût? Eh ben, tu vas le prendre, tu vas venir, tu vas lui faire commencer à lui faire goûter. Et progressivement, fais-lui goûter un vin à 5 euros, après un vin à 100 euros. Tu vois ce que tu vois la différence? Tu lui expliques la différence. Au début, il va pas sentir. Avec le temps, après, il va commencer à sentir. Eh ben, c'est la même chose de l'Avdil. Quand on parle de la Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il vient, il dit, j'aime pas Dieu. On lui dit, mais c'est normal, t'aimes pas Dieu. Le Dieu que tu n'aimes pas, moi aussi, je l'aime pas. C'est un Dieu d'ignorance, ça. Tu le connais pas. Bien sûr, tu le connais pas. Comment tu veux l'aimer?
Ça veut dire, j'aime pas Dieu.
Bah, ça veut dire, ça ne dit rien.
En français, ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire, ça ne dit rien. J'en ai rien à faire.
Ça veut dire quoi? J'en ai rien à faire. Ça veut dire, je suis athée?
Non, ça veut pas dire, je suis athée. Ça veut dire, j'ai pas de sentiment d'amour envers Dieu. Parce que je sais pas ce que c'est, donc je l'aime pas.
Souvent, tu le connais pas. Si tu le connais pas, ça veut dire que tu le pratiques pas.
Je te pose la question, je te dis, est-ce que tu aimes des chips au chocolat? Non, tu dis, j'en sais rien, j'ai jamais goûté.
Non, mais d'accord.
Non, attends.
Pour les chips au chocolat,
c'est une notion abstraite.
Je sais pas ce que je dis, plus que ça. Je vais te répondre, je sais même pas si j'aime ou j'aime pas. Je sais pas. Ça me dit rien, ça me parle pas.
Entre parenthèses, ceux d'ailleurs qui sont un peu à contre-courant là-dessus, souvent ils te disent, non, il y a trop de contraintes. Souvent, quand on parle à un juif,
ça c'est déjà pas mal, ça. Ça veut dire qu'il a déjà un sentiment.
Ça veut dire que.
Moi, je parle d'une personne qui n'a ni un sentiment pour, ni un sentiment contre. Il te dit, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que il se sent pas concerné.
Mais les mêmes, ils craignent Dieu, hein, ceux qui disent il y a trop de contraintes.
Alors, qu'est-ce qui t'explique? Qu'est-ce qui t'explique? En vérité, tu as raison. Qu'en vérité, au fond de nous, on a tous l'amour à la crainte de Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais est-ce qu'on le ressent dans la vie de tous les jours? Pas forcément. Alors, comment tu fais pour le ressentir? Comment tu fais pour créer un centre d'intérêt, pour contrer le Yetzer Hara? Là vient la réponse de ce Perek. La réponse de ce Perek, il te dit, et ça, on avait expliqué que c'est un Perek très important dans la Chassidut Chabad. Qu'est-ce qu'il explique dans ce Perek? Il te dit, si tu veux contrer ton Yetzer Hara à long terme, il n'y a pas d'autre moyen que de s'habituer à réfléchir à la grandeur de Dieu et à essayer de se situer, moi me situer par rapport à Kadosh Baruch Hu, et avec le temps, essayer de penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, il faut espérer, ça marche, d'accord? Automatiquement, avec le temps, ça peut prendre des mois, des années, des dizaines d'années, tu vas créer progressivement un sentiment d'amour envers Akadosh Baruch Hu. Alors vous allez me dire, mais c'est très très long. La Gemara Zaken te répond, il te dit, oui, c'est peut-être très très long, mais ça c'est quelque chose qui marche. Alors que quand tu es là à vouloir faire, d'accord, des choses dans lesquelles tu vas te, comment on appelle ça, tu vas te fourvoyer, enfin, tu vas aussi rentrer dans la, comment on appelle ça, ah, j'ai oublié comment on dit le mot en français. Se faire croire qu'on est dans quelque chose.
L'illusion.
Il y avait un mot en français, bon, il me reviendra. D'accord? On te dit, tu peux toujours continuer. Tu peux toujours dire, j'aime Dieu, alors tu n'aimes pas. D'accord? Et demain, tu diras deux fois, et bon, tu crois, tu penses, et demain, après demain, tu répéteras trois fois, et tu vas te croire encore que c'est vrai. Mais si tu veux un truc qui marche vraiment à long terme, il faut que tu comprennes. Voilà, exactement, auto-suggestion, chercher le mot. D'accord? Ça veut dire, ça marche, vous savez que l'auto-suggestion, ça marche. Il y a des gens qui vivent toute leur vie en auto-suggestion. Ça veut dire qu'ils se suggèrent qu'ils sont religieux, ils se suggèrent qu'ils croient en Dieu, ils se suggèrent qu'il est quelqu'un de bien, et toute leur vie, jusqu'à leur mort, ils vont croire que c'est des gens bien. Moi, je veux pas croire que je suis quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un de bien. Je veux pas croire que je crois en Dieu, je veux vraiment croire en Dieu. Je veux vraiment aimer Dieu, craindre Dieu. Or, pour l'aimer et le craindre, je suis obligé, d'accord, de développer ce sentiment. Pour développer ce sentiment, je suis obligé de réfléchir. Et ça, c'est l'importance de la chassidut Chabad. Chabad, ça veut dire quoi? Chabad, c'est les initiales de Chorma, Bina, Da'at. Pour te dire que tout est dans la tête. Il faut réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On va développer ça longuement dans les mots. Et surtout, il va poser une grande question dans la suite de ce périple-là. Il va poser une question, il va dire, finalement, d'abord, plusieurs questions on va poser. Si une personne a son cerveau qui n'est pas très évolué, j'explique ce que je veux dire. Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont bêtes. C'est que c'est des gens qui sont très terre-à-terre, très pragmatiques. Et dès que tu commences à lui dire, on va penser à la grandeur de Dieu, et essaye d'aller un peu dans la nature, de prendre de l'envol, etc. Il va dire, écoute, t'es bien gentil, fais ce que tu veux pour toi. Moi, il me faut des trucs concrets, moi je veux du concret, moi. Et c'est des gens comme ça. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont pas l'intelligence, mais c'est qu'ils ont pas, leur forme d'intelligence est une intelligence, on va dire, concrète. Donc ils n'arrivent pas. Première chose qu'on va demander. Deuxième chose qu'on va demander, c'est quelque part, et la question, comme tu as dit, Yves, est-ce que c'est pas quelque part de l'autosuggestion? Ça veut dire que tu es en train de te dire, je pense à la grandeur de Dieu, je pense, et je me dis la grandeur de Dieu, et j'aime Dieu. Mais est-ce que quelque part, tout ça, c'est pas faux? Est-ce que quelque part, ça, c'est pas du pipeau? C'est pas du bluff? Qu'en vérité, tu ressens rien, et tu perds ton temps. Mais d'un autre côté, comme on explique ici, tu es obligé de passer par cette case-là. Parce que si tu n'as pas la case de la réflexion qui t'amène à un vrai sentiment, tu n'as pas de quoi contrer le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara t'amène un plaisir dans la Vera. Comment tu lui réponds? Tu peux pas lui répondre. Donc on est obligé de créer quelque chose qui va contrer dans le bien. Ça veut dire que, et ça c'est très important ce que je vous explique. Par exemple, je donne un exemple concret. Le Shabbat. Vous savez, je fais les cours des jeunes. Et récemment, j'ai posé la question aux jeunes. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez du Shabbat? Vous n'avez pas idée combien de jeunes y répondent que pour eux, le Shabbat, c'est une galère. Comment on peut arriver à des choses comme ça? Que dans la tête d'un jeune, c'est que le Shabbat, c'est une galère. Qu'il n'a pas son iPhone, qu'il n'a pas sa Xbox, je ne sais pas, ce truc comme ça, ces bêtises, ou son Facebook, ou son Tinder, ou son truc, d'accord? Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre que dans la tête d'un enfant, Shabbat, c'est perçu comme une galère?
C'est une contrainte.
D'accord? C'est parce que maman, c'est une contrainte. Mais ça veut dire que quand tu lui poses la question, mais honnêtement, je te dis, c'est une contrainte. Ça veut dire que quand c'est un Shabbat d'été, il attend une chose, c'est que ça termine. Et s'il arrive à tenir jusqu'à la fin du Shabbat, comment c'est possible? Moi, je pense que, à mon humble avis, je pense par rapport en tout cas à ce périple-là, je pense que le problème, c'est que on peut pas être là seulement à interdire. Quand la Torah t'interdit quelque chose, il faut créer quelque chose de l'autre côté qui va combler ce centre d'intérêt en bien. Ça veut dire, tu lui as interdit le Shabbat, le téléphone, il faut essayer de recréer quelque chose le Shabbat qui remplace ça. Alors, remplacer à 100%, je ne sais pas si on va réussir, parce que bon, on ne peut pas remplacer, d'accord, à 100%, mais au moins, quand un enfant il dit ça, ça veut dire qu'il lui manque peut-être l'expérience du Shabbat. Alors, c'est quoi l'expérience du Shabbat? Ça se développe en famille, ça. Ça veut dire qu'il doit savoir que le Shabbat, c'est vrai que je ne touche pas mon téléphone portable, mais j'ai une autre manière de communiquer, j'ai une autre manière qui n'est pas si mauvaise que ça. Il sait, par exemple, qu'il va bien manger, qu'il va être avec sa famille, on va lui proposer, par exemple, d'inviter des copains à la maison. On va essayer de s'arranger pour rendre le Shabbat un moment fun, un moment intéressant, un moment sympa. Et je pense que ça, c'est le message de ce Pérec. Ça, c'est un message concret de ce Pérec qui te dit, tu ne peux pas être là constamment à interdire et à attendre que ça va décoller. Parce que sinon, tu as une relation de technique, c'est trop technique.
C'est vraiment, il y a technique. Beaucoup plus de contraintes, d'accord, et d'interdits que.
Non, chaque chose.
Le 11 étages, comment vous allez monter 11 étages? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a en face
pour, la Torah
pour est compenser 11 étages?
La Gemara dit comme ça que tout ce que Dieu a interdit, il a créé la même chose en cachère. D'accord? Alors, écoutez bien. Mm-hmm. Tout ce que Dieu a interdit dans le mal, il a créé la même chose, l'équivalent en cachère dans le bien. Ça n'existe pas interdire pour interdire et il n'y a pas et c'est tout. Ça ne marche pas comme
bénéfice
ça.
Bénéfice pour votre corps. D'accord. Tu bénis ta 11 étages.
Pardon.
C'est votre sport toute la semaine, oui. Faites le sport. C'est bénéfice pour le.
Rien ne vous oblige à habiter au 11e étage.
Rien m'oblige.
Moi, j'habite au 11e étage. Ah, ouais. Moi, ça me fait du bien. Hein. Mes enfants aussi, on grimpe, les autres tranquilles.
Oui, d'accord. Mais enfin, tout à l'heure, vous avez cité l'interdiction de l'iPhone. Et en face, on a une compensation. Oui. On fait venir les enfants et on compense, etc. Alors, 11e étage, qu'est-ce qu'il y a comme compensation?
Je sais pas, j'en sais rien. Mais alors, prenez un exemple.
Il y a des choses. Non, mais il y a des. C'est pour ça que je dis.
Attendez, Monsieur Benita.
Dans le Shabbat, il y a.
Monsieur Benita, dans chaque jour, dans chaque chose dans la vie, il y a des petits moments de galère. C'est pas grave ça. Par exemple, pour venir au cours ici, il y avait de la pluie. Vous avez affronté la pluie. Vous auriez préféré qu'il n'y ait pas de pluie, mais c'est pas grave. Vous voulez venir au cours, donc vous avez affronté la pluie.
Pareil. L'ascenseur de Shabbat, il est cachère ou il n'est pas cachère?
Ça dépend. Il y a l'ascenseur cachère, oui, bien sûr. Et ce sont des Shabbat cachés, c'est pas de problème. Mais moi, ce que je vais expliquer ici, c'est qu'on peut pas être là constamment à cœur interdit. On est obligé, avec le temps, de réfléchir. Et ça vient avec la réflexion. Pour essayer de réfléchir comment je vais transformer la mitzvah en quelque chose que pas seulement mon âme va aimer, même mon corps va aimer. Mon corps aussi doit aimer le Shabbat. Pourquoi vous croyez que les Chachamim ils ont instauré que le Shabbat, il y a des repas? On investit dans les repas. Vous croyez que c'est ça vraiment le Shabbat? On investit dans la bouffe? C'est ça Shabbat? Et Shabbat, on va dormir plus que d'habitude, c'est ça Shabbat? Dieu, il a créé un jour dans lequel on va plus bouffer et plus dormir, c'est ça Shabbat? Non, c'est pas ça. Le Shabbat, en vérité, c'est Kulo Lachem. C'est un jour qui est pour un Kadosh Baruch Hu. Shabbat Lachem, c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Selon comme un Kadosh Baruch Hu, il sait que pour que tu kiffes le Shabbat, il faut te donner des choses qui te parlent aussi à ton âme animale. Il faut te donner des choses qui parlent à ton corps. Alors on te dit, le Shabbat, tu vas aussi bien manger, tu vas aussi bien dormir, tu vas aussi ne pas travailler, tu vas être avec ta famille. Ça veut dire qu'on a aussi rajouté des paramètres pour ton corps, pour que ton corps aussi trouve que c'est un moment fun. Mais ça, c'est accessoire. Le but, c'est d'arriver à la sensation de savoir que le Shabbat, c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris que même les Chachamim, ils ont fait les choses intelligemment. On n'a pas dit directement, Assour, c'est fini, Assour d'allumer la lumière, il n'y a rien d'autre. Non, on a essayé de créer autre chose, le repas du Shabbat. Mais c'est la même chose.
C'est bizarre que les jeunes te répondent ça. On s'en rend plus compte aujourd'hui avec tout ce monde où on était tout le temps avec un objet à la main, avec un truc connecté, au contraire, c'est devrait ressentir encore plus que...
Ben, ils ressentent pas ça.
Ça viendra après, forcément, mais
oui, bon.
nous, on le... Ils sont tout le temps dans ces...
Mais pour eux, c'est une servitude.
Ouais. Quand on est en
parce qu'ils se sentent déconnectés.
Justement, ah bah c'est, oui, ça, c'est ça le grand plaisir de pouvoir déconnecter.
Toi, pour toi, c'est un plaisir. Pour eux, c'est pas un plaisir. Eux, ils s'amusent avec ça.
Mais il y en a beaucoup qui sont seuls aussi, qui font le Shabbat tout seuls parce que leurs parents sont pas là, etc.
Exactement.
Et là, c'est une vraie galère parce que les pauvres, ils sont tout seuls, etc. Enfin, voilà. Passer un Shabbat tout seul, c'est pas comme passer Shabbat en famille où il y a justement tout l'esprit du Shabbat.
Non, parce que par exemple, pour un jeune, par exemple, s'il est pas avec ses copains, alors bon, il se sent seul. Tu comprends? Quand il n'est pas pendant Shabbat, il va envoyer 50 messages ou 100 messages ou 2000 messages par jour, d'accord? Et c'est comme ça qu'il se sent. Donc moi je donne un exemple. Je dis par exemple, encourager, inviter un copain Shabbat à la maison, etc. Je sais pas, il faut réfléchir. Inviter un cousin, inviter, je sais pas. Mais faire en sorte que le Shabbat ne soit pas perçu dans la tête de l'enfant comme une corvée, comme une galère. Parce que ça laisse des traces à vie, ça. Parce que quand l'enfant il va grandir, s'il est resté sur une impression que le Shabbat c'est galère, ben il va arrêter Shabbat. Mais c'est important, ça.
Mais est-ce que les parents sont pas responsables aussi? Parce que quand un enfant, il voit son père en train de dire « Oh là là, il est 11h, Shabbat c'est toujours pas fini, ça, 11h05
», évidemment, les parents sont le responsable numéro un.
Je pense qu'au niveau chinour, s'il n'y a pas un vrai sentiment de joie dans le Shabbat, on...
Si on arrive à 16h30, d'accord, et que le père, il est en train de faire sa sieste, et qu'il se réveille, enfin, où on le réveille, et qu'il dit « Oh, je dois aller à Mincha », qu'est-ce qu'il a retenu, l'enfant?
La galère.
Comme Mincha, c'est une galère. Maintenant, le père, il pense pas. Bon, maintenant, quand il était au lit, il pensait. Après, il va venir à Mincha, il va être dedans, il va écouter un cours, il va oublier. Mais l'enfant, il a pas oublié. Lui, ce qu'il a retenu, parce qu'il est pas forcément venu à la choule, c'est que Mincha, c'est une galère. Et ça rentre dans la tête, ça. Ça, c'est un ravaneur, comme ça qu'il nous avait dit. Des fois, des mots comme ça qu'on sort de notre bouche, on s'en rend même pas compte. Et des mots qui sortent de ta bouche, que dans la tête de l'enfant, ça, c'est une galère. C'est pour ça qu'il t'explique ici que pour contrer le Yetzerara, tu es obligé de créer de l'autre côté, pour contrer l'amour et la crainte du mal, il faut contrer ça par l'amour et la crainte du bien. L'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Comment on génère l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu? On génère ça par la réflexion. Par la réflexion en pensant à Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et en s'expliquant, comme tu as dit tout à l'heure justement, en s'expliquant comment c'est grave de faire une Avera. Que même une toute petite Avera, comme c'est Dieu qui l'a demandé en personne, je me dis, mais attends, mais qui je suis moi pour défier la parole de Dieu? Quand tu réfléchis finalement qui tu es, qui est Akadosh Baruch Hu, tu comprends automatiquement que c'est très grave ce que tu as fait. Maintenant, après, est-ce que c'est d'autosuggestion ou pas? Ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, au moins, hein, tu donnes la matière à réflexion. Et ça, c'est très important dans la Chassidut Rabbat. La Chassidut Rabbat, c'est très important, la réflexion. La réflexion, c'est une case qu'on peut pas passer à côté. C'est tellement important qu'on a appelé la Chassidut Rabbat. Orma pina dat. C'est-à-dire que le plus important, c'est la réflexion. Quand quelque chose est bien pensé, il marche. Quand il est mal pensé, il marche pas. Même si tu crois qu'il marche, il va se casser la figure. C'est dans la vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on te dit, passe du temps à réfléchir, même si ça prend un peu plus de temps, mais une fois que c'est bien solide, que c'est bien pensé, et que tu le comprends et que tu y crois, tu peux y aller après, t'es intouchable. C'est ce qu'il dit ici. Donc dans les mots, Veirat Hashem Memocho, Liot Surmera Voreta de Rabbanan, Vafilou Yisarkal Shedivan Chose Shalom, Veavat Hashem Belimo Bechalaimani, donc j'accélère parce qu'on a fait ça la semaine dernière, Bachacheka Vachafetse le Dov Kabob Kumizot de Voreta de Rabbanan, Vetalmud Torah Shekeneget Kulam. Traduction, qu'est-ce qu'il vient d'expliquer ici? Que la personne, en fait, il va essayer de générer dans sa tête, d'accord, et dans son cœur, et enfin dans sa tête et dans son, c'est-à-dire son sa tête, sa réflexion va générer un sentiment de crainte et d'amour, de crainte d'Akadosh Baruch Hu en réfléchissant comment Dieu est tellement grand, comment moi qui je suis pour faire une avéra, et un sentiment d'amour. Comment on peut avoir un sentiment d'amour? On dit mais tu t'imagines, Dieu il est tellement grand, tu crois qu'il a besoin de mitzvah, tu crois qu'il a besoin de moi, et Dieu m'a donné de l'attention. Il y a un exemple qui est révélé dans Yom Yom. Imaginez, tu as une personne qui est très 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 intelligent. Et de l'autre côté, t'as une personne qui est ultra chmar. Voilà, ultra chmar. Et tu mets les deux dans la même pièce. D'accord? Est-ce qu'ils peuvent communiquer? Non, impossible. Est-ce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt?
Non.
D'accord? Évidemment non. C'est-à-dire qu'un, il va parler, bon, un, il va parler de football, l'autre, il va parler de science. Bon, c'est rien contre le football, hein. Mais, donc, alors.
Les gens sont intelligents,
tu parles. Les
supporters, oui, levez-vous. Ceux qui monnaient le football sont intelligents. D'accord. Donc, tu mets les deux. Alors, non, mais écoutez bien, c'est un bel exemple dans Yom Yom. Il dit comme ça. Il dit, celui qui est là, celui qui est bête, et qui est devant cette personne qui est très intelligente, il a une admiration. C'est pas la personne qui est intelligente. Il a une admiration, et il essaye de capter son attention. Parce que bon, il aimerait que l'autre, pareil, il lui parle un peu, il lui dise un truc. Maintenant, l'autre, il aimerait bien, mais bon, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, donc ils ne communiquent pas. Et l'autre, il est là, il essaye d'attirer l'attention, etc. Et à un moment, celui qui est très intelligent, le scientifique, il s'adresse à la personne qui est très simple, il lui dit, est-ce que vous pouvez aller me chercher un verre d'eau, s'il vous plaît? Et là, l'autre, il est heureux comme tout. Qu'est-ce qu'il est heureux? On t'a demandé d'aller chercher quelque chose. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il s'est senti valorisé. Il dit, ah, au moins je sers à quelque chose. Eh ben, il explique là-bas, il dit, c'est la même chose. Il dit, quand nous, on est par rapport à Kadosh Baruch Hu, on a encore une plus grande distance qu'un Hachmar par rapport à quelqu'un très intelligent. Et donc, qui on est pour que Dieu nous demande à faire quelque chose? On veut rien du tout. On n'est pas dans la. Si vous dire à Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh chez Kadosh et nous, on est Gashmi, matériel chez matériel. Et on attend une chose, c'est que Dieu me donne de l'attention, qu'il me regarde. Et quand Dieu te dit, viens, j'ai une mitzvah pour toi, j'ai un offre pour toi, va me chercher un verre d'eau, va me mettre le tefillin, va me mettre ton talit, va faire ton shabbat. Mais c'est un kiff pour moi de faire la mitzvah. C'est pas lui qui gagne, c'est moi qui gagne, c'est moi qui kiffe. Je dis, mais tu imagines, grand comme il est, il m'a donné une action, il m'a valorisé et qu'il me fait comprendre que ce que je fais, ça l'intéresse et qu'il va regretter ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Parce que tu crois vraiment que ça va lui changer si t'as bien fait ou mal fait?
Ouais,
ça veut dire qu'il t'a valorisé. Il t'a valorisé, c'est extraordinaire. Quand tu réfléchis à ça automatiquement, tu commences à avoir un sentiment, d'accord, mais chacun réfléchit à sa manière, mais tu commences à avoir un sentiment de grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait aussi, quand on va en vacances, quand on analyse des paysages et qu'on voit la grandeur de la nature d'Akadosh Baruch Hu, et que tu te sens comme t'es tout petit, quand tu te mets devant un océan, quand tu te mets devant des montagnes, quand tu te mets devant des choses comme ça, devant des paysages comme ça, tu te sens tout petit, tu te sens un microbe. Et c'est là que tu réalises qu'en vérité, tu dis, mais toute ma vie finalement tourne autour de moi. Pourquoi la vie tourne pas autour de Dieu? Toute ma vie, c'est qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a dit, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'ai pas fait tout. Moi. C'est-à-dire que moi, je sens que je suis le centre du monde. C'est-à-dire que le monde a été créé autour de moi. D'accord? Mais quand tu vois des choses comme ça, quand tu penses à la grandeur de Dieu, automatiquement, tu développes plus la crainte d'Akadosh Baruch Hu et tu développes plus l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il te dit, Sila de Morazaken, il te dit, c'est impossible de contrer ton Yitzhara à long terme si tu passes pas par ces deux étapes, à savoir l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu que tu vas générer par ta réflexion et volontairement, il ne donne pas de réflexion à avoir ici. Il ne donne pas un mode d'emploi. Tu ne diras pas, tu penses à ça et à ça et à ça. Parce que c'est chacun, comme il doit penser selon ses moyens et selon sa manière de voir les choses. Mais on est obligé de prendre du temps pour réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais juste terminer par un exemple après les questions. Le cycle d'avant du Tania, quand on l'avait fait, bon, ça fait 7 ans, 6, 7 ans. Je vais donner un exemple, en tout cas moi je parle qui nous concerne. Il dit par exemple, regardez, quand on prend la voiture, dans la voiture, tu as les embouteillages, des trucs comme ça, il y a plein de moments morts. Bon, des fois, tu es en train d'écouter encore le Torah, des fois, tu n'as pas la tête, tu n'écoutes pas. Il y a plein de moments morts. C'est des moments dans lesquels tu peux réfléchir. À quoi tu réfléchis à ce moment-là? On ne se rend pas compte, mais il y a des heures comme ça perdues pendant la journée, des heures dans lesquelles tu ne fais rien. À quoi tu penses à ce moment-là?
Au travail.
D'accord? Au travail ou à rien? À rien, pense à rien. Mais il ne sait pas à quoi il pense. D'accord? Il pense à ce qu'on lui met devant les yeux. Et bien, si dans un moment comme ça, on prenait un moment pour essayer de penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que représente Akadosh Baruch Hu, à la nature, regardez ce qu'il y a autour de nous. Alors c'est vrai qu'au début on va se sentir un peu, dire, mais attends, mais est-ce que je fais pas un truc qui n'a aucun rapport avec moi là, tout d'un coup moi je commence maintenant à analyser, ça. Voilà, c'est tranquille, fais tes mises, c'est déjà bien. Non, la Morazaken il te dit, tu es obligé de passer par là, et c'est pas pour les tzadikim ça, c'est pour tout le monde a besoin de ça, et il te dit plus que ça. Monsieur tout le monde a besoin de ça encore plus que le tzadik, parce que le tzadik sur les tzahara ne l'attaque pas, donc il n'a pas besoin de contrer. Mais toi, moi, puisque mon Yitzhara m'attaque avec des plaisirs de ce monde-ci, je suis obligé de créer, de contrebalancer en essayant d'avoir du plaisir dans quelque chose, dans quelque chose de Torah, dans quelque chose de Halakha, dans quelque chose. Il faut créer un plaisir dans la Torah. Sinon, c'est pas bon. Maintenant, les questions, et après on va avancer. Alors juste, je donne le preview de la suite. Ce qu'on va expliquer après dans la suite, c'est qu'il va poser la question, il va dire, qu'est-ce qu'on fait avec celui qui pense qu'il n'y arrive pas? Parce que son cerveau n'est pas fait pour ça. Il n'arrive pas à être, c'est pas un penseur. Il y a des gens, c'est des penseurs. Il y a des gens, vous savez, tu peux les mettre 15 heures dans la même pièce, ils peuvent réfléchir 15 heures au même sujet. Il y a des gens comme ça. D'ailleurs, vous savez que c'est quoi la grande chorma des grands scientifiques? La grande chorma des grands scientifiques, c'est qu'ils arrivent à rester focalisés sur un point et ils le lâchent pas. C'est une très très grande chorma, c'est très difficile. Essayez de réfléchir juste 10 minutes à un point donné, d'accord, à un sujet donné, sans vous déconcentrer. C'est presque impossible. Essayez 10 minutes. Et c'est une minute. D'accord? C'est presque impossible. Celui qui n'a pas l'habitude, c'est impossible. D'accord? Même une minute, c'est impossible. Et c'est ce qui va t'expliquer.
C'est un exercice mental.
Alors voilà.
C'est un exercice mental. Alors, ça veut dire que c'est comme quand tu cours un 1 km. Tu ne peux pas le courir en une fois. Tu es obligé de faire 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres. Donc c'est un exercice mental.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que constamment ta pensée, elle est en train de t'envoyer la pensée d'après. Ton cerveau, il est en train de t'envoyer la pensée d'après, ce que tu dois penser après. Il ne te laisse pas te focaliser sur ce que tu es en train de faire maintenant. Et ça, c'est le piège du Yetzara. Parce qu'il te dit, il faut penser à ce que tu fais maintenant et essayer d'approfondir, de penser à la grandeur de Dieu, de penser à la nature, et automatiquement, tu verras qu'à un moment, ça va décoller. Moi, le plus dur, c'est d'y réfléchir. Alors là, on va parler après dans la suite. Qu'est-ce qui se passe si je sens que, bon, j'y arrive pas parce que, voilà, bon, je suis pas fait pour ça, ou j'arrive pas. Moi, je suis quelqu'un d'action, je suis un homme de terrain, je suis pas un homme qui est là à réfléchir des heures ou des longues minutes sur un sujet. Alors, on va parler de ce cas spécifique. Mais d'abord, on va faire une pause pour les questions.
Allez. Pour revenir sur l'exemple du Yom Yom.
Oui.
Si l'intelligent avait dit à l'imbécile, ramène-moi un verre d'eau, sinon je te tue. Je pense pas qu'il aurait eu la même estime pour celui qui lui
a dit. Il aurait eu une estime quand même, parce qu'il se sent valorisé. Il est déjà mort. D'accord. Il va lui dire, je te bute moi, alors.
Non, voilà, donc... On peut pas vraiment. Parce que je vous prie, si tu fais ci, sinon t'auras.
Mais ça, je t'expliquais.
C'est le remar avec la racaille.
Le remar, d'accord. Il est déjà mort. Il se sent mort devant l'autre. Et quand l'autre lui a donné un peu d'attention, il se sent qu'il a revécu. Tu comprends ce que je veux dire?
Donc, en fait, il faut déjà se sentir mort par
évidemment,
rapport à Kadosh Baruch
Hu. Évidemment.
C'est pas évident.
Alors, voilà. Donc, comment, c'est ça la réflexion. La réflexion, c'est de se sentir comme en vérité, je suis un microbe. Comme Abraham Avinu, il a dit dans la paracha, il a dit Va'anochi, Afar va'efer. Il en a parlé cette semaine. Il a dit, je ne suis que poussière et cendre devant Dieu. Ça veut dire, il est arrivé à la conclusion qu'il est poussière et cendre devant Dieu. Vous comprenez? C'est un niveau d'arriver à une conclusion comme ça. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la conclusion qu'en vérité, il est rien devant un Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est pas venu comme ça. Avraham Avinu, pour ceux qui étaient là au cours de la semaine dernière, qu'on a fait Shabbat après-midi, Avraham Avinu, depuis l'âge de 3 ans, il réfléchit. Depuis l'âge de 3 ans, il n'a pas de tout remettre en question. Et après, à la fin, hein, quand tu le prends 100 ans plus tard, il va te dire, je suis poussière devant un Kadosh Baruch Hu. C'est venu par la réflexion. S'il n'y a pas de réflexion, c'est impossible d'arriver à ça. Alors, bon, bien sûr. On pourra toujours, je termine juste le raisonnement. On pourra toujours arriver à l'amour et à la crainte cachée. C'est quoi l'amour et la crainte cachée? Ça veut dire comment tu pourras être un bon juif de Kippour. Le jour quand tu auras Kippour, quand tu auras les Stichot, ben tu es là, tu vas te réveiller. Et après, quand Kippour est terminé, ben c'est fini, tu reprends la vie active. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en vérité, tu n'as jamais développé d'amour et de crainte. Tu n'as fait qu'utiliser l'amour et la crainte que tu avais caché en toi. Et que ça, ils ressortent, ils remontent à la surface à certains moments de l'année, et après ils repartent, et c'est fini, et plus rien. C'est pas ça qu'on cherche maintenant. On cherche quelque chose qui va tenir toute l'année. Que toute l'année, ça doit marcher. Il te dit, si tu veux que ça marche toute l'année, il faut que tu sentes que tu vives la chose. Pour vivre la chose, il faut y réfléchir. Il faut que tu réfléchisses tellement, tu réfléchis à Kadosh Baruch Hu, qu'après un moment, tu sens que ça décolle, tu sens que tu commences à aimer à Kadosh Baruch Hu, t'es impressionné par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu sens que tu as peur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Parce que tu comprends, Dieu est tellement grand et que toi t'es tellement petit. Mais ça, il te dit, si tu n'as pas la réflexion, c'est impossible d'arriver à ça. D'où l'importance de la réflexion. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions, parce qu'après, comme ça, je vais m'arranger pour les intégrer. D'accord.
Il y a mieux qu'avoir ma vie, nous, quand même.
Oui, qui c'est?
Moshe Rabbeinu, il a dit Vanochima.
D'accord, mais Moshe Rabbeinu, il est venu après avoir ma vie, nous. Quand on vient le deuxième, c'est facile d'être meilleur que le premier.
Enfin, on va faire, c'est quand même quelque chose. Quoi. C'est
ouais,
la poussière.
Bien sûr.
Comment on va faire? Il n'y a rien à voir avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est un numéro 1, et nous, c'est même pas si on est numéro 10. Donc, tu as dit, il a commencé à réfléchir à 3 ans.
Oui.
Et à 100 ans, il est arrivé à la réflexion, c'est une, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est une cendre. Comment nous, on va faire, alors qu'on a tous à peu près moins de 50 ans ici? Et qu'on est les derniers de la classe par rapport à Abraham Avinu.
Alors, évidemment que je dois aspirer de devenir un jour comme Abraham Avinu. Pourquoi pas? On se souhaite. Et on doit se souhaiter.
Il s'est extrait du monde.
D'accord?
Pour penser qui il était par rapport à Kadosh.
Tu as raison.
Comment on va faire nous pour s'extraire du monde?
Alors, je dois me souhaiter d'être un jour comme Abraham Avinu. C'est une bonne question que tu dis. D'accord?
Non, mais le travail qu'Abraham Avinu a fait sur lui, nous, on a des étincelles quand même.
Je peux le faire.
Non, mais on part à 3 ans, on est déjà mieux qu'Abraham Avinu lui, parce qu'on a quelque chose que lui, il a déjà. On a une base que lui n'avait pas.
Mais ce qui est très très clair ici, c'est qu'il te dit que tu es obligé de passer par la réflexion. Sinon, ça marche pas. Si tu passes pas par la réflexion, ça marche pas. Et je sais pas si c'est un exemple la semaine dernière, mais on peut appliquer ça dans tout ce qui est dans la vie. Par exemple, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, d'accord? Tout ce que tu aimes, tout ce que tu peux aimer dans la vie. Ce que tu crois que tu aimes, le lendemain tu l'aimes plus. Parce que c'est fini, tu es déjà habitué. Si tu veux recréer l'amour, tu es obligé de réfléchir pourquoi tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et quand tu réfléchis, qu'est-ce qui représente pour toi, c'est là que tu vas créer l'amour. Mais ça, c'est une base dans la vie, ça, ce que je suis en train de vous raconter là. C'est quelque chose qui te dit que si tu n'as pas la réflexion, alors après, sinon, on est obligé d'aller dans la surenchère, mais après, ça s'arrête plus, ça finit plus. T'es obligé de comprendre pourquoi tu aimes la personne. Qu'est-ce qui représente pour moi?
Il y a de l'amour inné.
D'accord. Il y a de l'amour inné, mais le problème de l'amour inné.
Tu l'aimes sans réfléchir.
Oui, d'accord. Ton fils, tu as raison que ton fils tu l'aimes parce que c'est ton fils, d'accord. Mais après un moment, tu oublies que tu l'aimes. Écoute bien ce que je dis. Ton fils, tu oublies que tu l'aimes. Ça veut dire qu'à moins qu'il y ait des situations particulières qui te le rappellent, tu oublies que tu l'aimes parce qu'il n'y a rien qui te rappelle que tu l'aimes. Il faut te mettre dans une situation que tu te rappelles qu'est-ce que ça représente mon fils pour moi. Qu'est-ce que c'est pour moi d'avoir un fils? À quoi ça sert? Pourquoi j'ai un fils? En quoi je suis différent avec un fils, sans un fils? Qu'est-ce que je vais lui amener? En quoi moi j'ai besoin de lui, en quoi lui il a besoin de moi?
Non mais. Mais ce qu'il veut dire par là, je comprends pas. Si tu prends le cas où il part en vacances un mois, c'est dans ce cas-là, tu te poses la question, tu dis.
Voilà.
Il manque.
Et pourquoi il te manque? Parce que c'est là que tu réalises. Alors qu'en vérité, quand il est là tous les jours, tu l'écris dessus. Tu l'aimes, tu l'écris dessus. Parce que tu réalises pas qui il est. Tu t'es marié avec ta femme, parce que tu aimes ta femme. Après, au bout de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans de mariage, tu demandes à une personne, tu dis, est-ce que tu aimes ta femme? Il va te répondre machinalement, oui. Tu dis, est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Il dit, je sais pas. Ouais, certainement.
Quoi, certainement? C'est que
la différence.
Femme, la différence. Moi, je pense que la réponse est pas shoot. D'accord? La réponse est pas shoot. La réponse est très simple. C'est que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Tu le connais pas, tu peux pas l'aimer. Plus tu le connais, plus tu l'aimes.
Ça suffit pas.
D'ailleurs, comment dans la Torah on dit les relations avec une femme? Comment on dit que Adam, d'accord? Non, comment on dit dans la Torah, il a connu? Comment on dit que Adam a eu des relations avec sa femme? On dit Veha Adam yada et travaille. Il a connu sa femme. Ça veut dire que le plus important c'est la connaissance, c'est la compréhension. C'est quand je sens qu'on va dans la même piste et je sens que j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça représente dans ma vie. C'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr que Dieu est important pour moi dans ma vie, c'est évident. Mais si je veux réellement se dire qu'il est vraiment important pour moi et que c'est un centre d'intérêt et que je l'aime autant que j'aime la Avera, que j'en ai peur autant que j'ai peur, ce qui me pousse à avoir peur de perdre de l'argent par exemple. Ben il te dit ça, tu es obligé d'avoir de la réflexion, de réfléchir constamment à la grandeur d'Kadosh Baruch Hu. D'accord? Seulement, la question qu'on va poser maintenant, qu'est-ce qui se passe si je sens que je suis pas fait pour ça? Si je sens que j'arrive pas à réfléchir et que bon, je sens que je suis pas un planeur, moi. Voilà, il y a des gens qui sont là, ils aiment bien planer. Il y a des gens, tu les laisses comme ça, tu reviens une heure plus tard, il est encore comme ça. Et il continue, il plane. Il y a des gens comme ça, mais il y a des gens qui sont pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Comment il va générer en lui un amour, une crainte, un cadeau, je m'en fous. Hein, Ben, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il fait celui-là?
Il étudie.
Ouais, mais c'est marrant.
Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, il va lui dire quelque chose de très important là, oui? Pardon.
Non, vas-y, continue. C'est moi qui
t'écoute. J'écoute Ben. T'as pas entendu encore Ben? Hein?
Il fait rien, il est à côté de la porte. Il médite.
Mais concrètement, alors quoi? Ça veut dire que celui qui ne sait pas méditer, alors c'est fini, il est cuit? La Torah a été donnée uniquement pour les gens intelligents, pour les gens qui savent méditer? Et celui qui ne sait pas méditer, celui qui n'arrive pas à méditer, qu'est-ce qu'il fait?
En fait, il faut apprendre, j'ai l'impression, parce que... Moi, j'allais à un cours tous les lundis.
Oui, mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas.
Il a fait l'effort, c'est bon?
Oui, mais ça... C'est pas avec ça que tu vas contrer dans Yitzhara.
D'accord, il a fait l'effort.
C'est bien. Ça marche quand on est enfant.
Et si on est toute notre vie un enfant?
Non, ça ne marche pas. Parce que ça ne marche pas comme ça. Parce que...
Si on est nébrel, qu'est-ce qu'on fasse?
Le Yitzhara, il évolue avec le temps. Donc le Yitzhara est obligé d'évoluer aussi. C'est la réalité, ce que je te dis. Il évolue, lui aussi. Si tu évolues pas, dans ce cas-là, c'est la catastrophe. Je suis obligé d'évoluer avec lui. Je suis obligé de créer un sentiment que matériellement, je sens que ça m'intéresse. Matériellement, je sens que ça me parle. Que de la même manière que quand tu aimes, quand une personne, il aime quelque chose, il peut avoir la chair de poule, eh ben, il faut que spirituellement, quand tu aimes Dieu, t'as la chair de poule. Comment c'est possible? Ça, c'est pas qui pour aujourd'hui. Comment on peut arriver à ça?
Tu as dit que pour aimer, il faut connaître.
Ah voilà. Donc
si on t'enseigne quelque chose.
Voilà.
Et que
on m'enseigne quoi?
On t'enseigne la grandeur.
Voilà. On m'enseigne un sujet qui parle de la grandeur.
Voilà. Mais que toi, comme un cours de physique ou comme un cours de sciences nettes, alors que toi tu es complètement littéraire, tu comprends que dalle.
Oui.
Alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si on essayait de rentrer un bloc de béton dans un trou comme ça.
Exactement. Donc ça veut dire que tu es en train d'amplifier la question qu'on va poser, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec une personne.
Il
sent qu'il n'est pas fait pour ça. Il vient à un cours de Tanya, parce qu'on lui dit que quand il va venir à un cours de Tanya, grâce à ça, on va lui raconter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et la puissance de sa Neshama, et que grâce à ça, il va pouvoir aimer et craindre Akadosh Baruch Hu, et il sent que ça décolle pas, il sent que ça lui parle pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Faut qu'il arrête de venir au cours de Tanya? Ah, monsieur Binita, qu'est-ce qu'il faut faire?
En fait, c'est marrant, parce que moi, c'est.
Excusez-moi, j'ai pas écouté la question.
J'ai dit, si une personne, il vient à un cours de Tanya, Parce qu'il espère, quand il va venir au Kolotania, on va lui donner des outils pour réfléchir à la grandeur de Dieu, et comme ça, ça va lui amener l'amour et la crainte de Dieu. Il pense que ça va marcher, mais concrètement, il voit que ça n'intéresse pas le Kolotania. Est-ce qu'il faut qu'il arrête de venir ?
Il faut persévérer jusqu'à ce que ça rentre.
Et si ça rentre pas ?
Eh ben, on verra, on verra.
Alors,
on verra si ça rentre pas. Hein.
Alors écoutez bien ce qu'il veut dire ici. Veilleter Alken.
La 40e année, hein, si ça rentre.
Veilleter Alken. Encore plus que ça. Vous avez dans les mots Yeter Alken ? Allez, on prend dans les mots. Yeter Alken.
Quelle page ?
J'ai pas le livre en français là.
213.
Ah oui, oui. Voilà. Veilleter Alken. Encore plus que ça. Tsarich Leda Klal Gadol. Il faut savoir un grand principe, Bavoda, la Benonim, dans ce qui concerne le service de Dieu dans Benoni. Le premier principe qu'on a expliqué, c'est quoi? C'est que le but d'un Benoni sur terre, c'est quoi? C'est de dominer son Yitzhara. Ça, c'est le but numéro un. Ça, c'est le principe, grand principe numéro un. C'est quoi le deuxième grand principe? C'est que le Benoni doit savoir. Shegam imen yatsichlo. Même si Yatsichlo, littéralement, ça veut dire la main de son cerveau. Ça veut dire même si l'accès de son cerveau. Verouar binato. Et même si l'esprit de son intelligence. Ils ne sont pas maseguet. Il n'est pas assez intelligent. Il ne saisit pas assez. Léolid à Avatachem. Il n'est pas assez puissant pour générer à Avatachem l'amour de Dieu. Beit galout libo. De manière dévoilée dans mon cœur. C'est-à-dire, je l'écoute. Je viens à les cours de Torah. J'entends, je pense à la grandeur de Dieu. Mais je peux pas dire que j'aime Dieu comme j'aime une Avera. Je peux pas dire que j'aime Dieu, mais it galut libo, ça veut dire de manière dévoilée dans mon cœur. Ça veut dire que quand tu me proviens d'une Avera, c'est là, je le sens. Je sens mon cœur qui bouge. Je sens pas que quand je parle de Dieu, je sens pas que mon cœur y tremble. Alors il dit, qu'est-ce que je fasse? Est-ce que c'est fini? Je suis cuit, j'ai rien à faire? Là, on te donne le deuxième principe au Benoni. Il te dit, même si tu crois que ton cerveau ne réussit pas à générer un sentiment tellement puissant pour que ton cœur, que t'as un sentiment dévoilé dans ton cœur, que ton cœur t'aurait aimé, mais c'est pas le cas, que ton cœur brûle comme des flammes de feu, comme une personne qui est fou amoureux, et que voilà, tu sens que c'est fini, c'est le feu, il tient pas en place. Vechafet, c'est qu'il veut, vechafetza, dans un désir, vechasheka, d'accord, une passion, ou enfin, un désir, une volonté, une passion, quand on aime quelque chose, tu sens que la personne, il a le feu aux poudres, il tient pas en place, le bonhomme, il est là, il veut ce qu'il veut. Alors, il va se dire, mais est-ce que je peux arriver à un niveau comme ça dans la Torah? D'avoir le feu de Dieu, de vouloir atteindre un Kadosh Baruch Hu? Le Béni dit, écoutez, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas comme ça. Jamais j'arriverai à ça. J'ai réfléchi, bon, je viens de cours de Torah, mais je ne sens pas que ça décolle. Comme je décolle pour une Avera, ou même pas pour une Avera. Pour un objet de ce monde-ci, pour un plaisir de ce monde-ci. Je ne sens pas que quand je viens à cours de Torah, je ne sens pas que mon âme décolle et que j'ai un amour comme on arrive à me faire rêver, à me faire saliver quand on présente quelque chose de ce monde-ci. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça veut dire que je suis cuit? Est-ce que ça veut dire que j'ai raté quelque chose? D'accord? Rak, ahava, mesutere, de mochovet, alumot, libo. D'accord? Je sens, il te dit, le Benoni te dit, je sens qu'au maximum, quand j'arrive à pousser, qu'est-ce qui me reste? D'accord? Il me reste juste je sens que j'ai un amour caché au fond de moi, que je sais qu'il y a un Kadosh Baruch Hu sur terre. Mais ça veut dire que, très très clairement, j'ai pas contrebalancé du tout, le Yetzara. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai rien à faire? Est-ce que c'est fini? Ça, en vérité, c'est notre vie, c'est ce qu'il raconte ici. Ça veut dire que dans ce monde-ci, on le vit pleinement, on le sent pleinement, on le vibre. Et dans la Torah, c'est beaucoup plus difficile. T'arrives pas à le vibrer autant. Alors qu'est-ce que je dois faire? Et là vient le deuxième grand principe que l'Admor HaZaken va te dire ici. Mais avant, il explique. D'accord? Il te dit, l'Admor HaZaken explique ici. Il te dit que tu dois savoir, Dehaïnou, ça veut dire, Shalev mevin beruar chorma ubina shememocho. Ça veut dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma tête? Mon cœur, il comprend. D'accord? Grâce à la réflexion que j'ai eue dans mon cerveau, Gdulaten Savaru, Dekula Kamekel Hashiv, que tout est devant Kadosh Baruch Hu. À quoi je vais réfléchir? Je vais réfléchir au fait que Dieu est tellement grand que devant Dieu tout est insignifiant, tout vaut rien. Asher Alken, que c'est pour ça, ça vaut le coup pour Dieu. Je vais expliquer parce que là on a dit pas mal de définitions, il faut que j'explique un peu ce qu'il dit ici. L'Admor HaZaken ici te donne un nouveau principe, il te dit comme ça. Il te dit, ne te fie pas aux apparences.
Merci.
Voilà, en d'autres termes, le deuxième paramètre qu'il te dit ici. Ne te fie pas aux apparences. C'est pas parce que tu crois que tu n'as pas décollé que tu n'as pas décollé. Alors il te dit, oui mais d'accord, mais c'est trop facile ça. Il te dit non. Et ça, c'est expliqué ici. Il te dit, ne crois pas parce que tu n'as pas décollé que tu n'as pas décollé. En vérité, au fond de toi, il y a un moteur qui a décollé. Maintenant, est-ce que tu te rends compte maintenant ou tu te rends pas compte maintenant? Je sais pas. Vous savez, je sais pas si vous arrivez des fois. Des fois, tu entends quelque chose dans un cours. Tu l'entends. Bon. tu l'entends, bah, c'était intéressant, t'as entendu. Et après, des fois, hein, des semaines plus tard, ça te ressort. Ouais. Une idée que tu as entendue dans un cours. Exactement. Pourtant, hein, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu l'as entendu, t'as pas senti que ça t'a changé ta vie. T'as pas senti que c'était quelque chose de très puissant. Et pourtant, tu l'as emmagasiné, ça a laissé des traces. Et tout d'un coup, un jour dans ta vie, t'as une situation qui arrive, pac, ça ressort. Si ça ressort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, au fond de toi, ça t'a marqué. Ça t'a laissé une trace.
C'est resté dans le subconscient.
Et ça, c'est ce que te dit ici la Morazaken. Ici, Al Morazaken, il te dit, il s'adresse à ce fameux Benoni du chapitre 15. Le Benoni, voilà, celui qui est là, que bon, il a une Sarah qui est très difficile, comme nous. Il te dit, écoute, sache deux choses. Premièrement, sache que tu as été créé pour te battre. Enfin, tu as été créé pour casser ton Sarah, premièrement. Deuxièmement, ne te fie pas aux apparences. C'est pas parce que tu crois que ça n'a pas décollé que ça n'a pas décollé. Toi, tu dois essayer constamment de travailler, investir. Tu vas essayer. D'accord? Et sache que ne crois pas parce que tu crois que ça n'a pas décollé, que ça n'a pas décollé. Ça a décollé, ça a fait quelque chose. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, tu sais, quand tu as réfléchi à la grandeur de Dieu, ça a laissé une trace en toi. Ton cœur, il a compris que Dieu est très très grand. Même si tu ne l'admets pas tout de suite, mais ça a laissé une trace en toi. Que tu as compris que Kadosh Baruch Hu est très très grand et qu'en vérité, c'est lui le patron dans le monde. Alors maintenant, est-ce que maintenant ça a eu des répercussions dans ma vie active aujourd'hui? Peut-être pas. Mais ça laisse des traces. Ça veut dire qu'à force de passer une fois, deux fois, trois fois, eh ben peut-être ça va m'aider à me retenir d'une avéra. Et que peut-être une fois quand le Yitzhar va vouloir proposer une avéra, eh ben je vais me calmer, je vais dire non, ça se fait pas, Kadosh Baruch Hu est très très grand. Ne te fie pas aux apparences, d'accord, sur le moment donné. Et là, en vérité, je pense que ce grand principe-là est applicable surtout dans notre génération. Vous savez, la génération d'aujourd'hui, et surtout les jeunes, c'est la génération McDonald's. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut du résultat, hein, tout de suite. Comme ça, les gens. Aujourd'hui, les gens, ils veulent gagner tout de suite. Quand je parle aux jeunes, je leur dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit, je veux gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il veut un travail, il fait un an d'études, et il va gagner un paquet d'argent. Et si on pourrait inventer ça pour les jeunes, ils te signent tout de suite. Je vous promets, c'est une vraie vie. D'accord? D'accord? Mais ça veut dire comme ça. Attendez. Les gens de l'époque, peut-être qu'aujourd'hui ils veulent gagner beaucoup d'argent, mais quand ils étaient jeunes, ils avaient un idéal. D'accord? Par exemple, je donne un exemple. Non, je suis très sérieux, hein. J'ai parlé à des jeunes qui font médecine. Pas d'ici, parce que j'enseigne le mardi au club étudiant. Je leur pose la question, je dis pourquoi tu fais médecine? Plusieurs te répondent, et c'est une catastrophe d'entendre une réponse comme ça, pour gagner beaucoup d'argent. Il te dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il te dit. Mais c'est très grave, ça. C'est une catastrophe. Parce que, qu'un médecin gagne de l'argent, la brioute, en bonne santé, d'accord, il doit gagner beaucoup d'argent, et que les juifs, ils gagnent des milliards, et pas de problème. Mais pourquoi t'es devenu médecin? C'est une vocation d'être médecin, c'est pas pour gagner de l'argent.
Faut aimer.
Imagine le bonhomme, ça veut dire qu'il aime pas la médecine, lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Et ça, c'est ce qu'il explique ici. En vérité, surtout dans une génération comme la nôtre. Dans laquelle, on est dans une génération dans laquelle les gens, ils pensent qu'il faut des résultats tout de suite. Moi, je vais dire, s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il n'y a rien. Viens te donner le deuxième principe, il te dit, c'est pas parce que tu n'as pas ressenti qu'il n'y a pas. Il y a, mais il faut attendre. Il faut attendre, ça prend du temps. C'est pas parce que tu n'as pas ressenti qu'il n'y a rien du tout. Ça prend du temps. Et au contraire, regardez, on va voir par exemple dans les parachutes suivantes, qu'on nous dit que Yaakov, il a travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel. Et qu'est-ce que nous dit le verset? Il nous dit que il a travaillé 7 ans et que c'est justement pendant ces 7 ans-là qu'il a appris à l'aimer. Ça veut dire quoi? Ça, c'est pas un coup de foudre qu'il a eu. Pas un coup de foudre, elle était belle, elle lui a plu. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'il a appris à aimer. Il a appris à chercher ses qualités. C'est ça le mariage. C'est pas stable de dire j'ai eu un coup de foudre. C'est réfléchir quelles sont les qualités et apprendre à aimer avec le temps. Et même si maintenant, aujourd'hui, elle me prend la tête, et ben peut-être demain, elle prendra un peu moins la tête. Et c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle me prend la tête, ça veut dire qu'elle est pas faite pour moi. C'est important à savoir ça. Ça veut dire que il faut comprendre que c'est pas les résultats, d'accord? Les résultats ne sont pas forcément tout de suite. Les résultats peuvent être sur des dizaines d'années, peuvent être sur très 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 longtemps. C'est ce qu'on te dit ici. Ne crois pas que maintenant tu as compris l'impact de la mitzvah, l'impact de la réflexion que tu as eue ici. Dans les mots, il explique ici. Il te dit, c'est quoi ce deuxième principe? Que le cœur va penser à la grandeur de Dieu, à Cher Alken, que c'est pour ça. Alors, j'explique ce qu'il dit ici. Ça, c'est très puissant ce qu'il dit ici. Il dit, c'est la suite, mais en fait, c'est très très puissant ce qu'il dit ici. Il dit, des fois, quand tu vas rentrer dans la réflexion, tu vas rentrer dans un syndrome que je vais appeler le syndrome de la théorie. Ça veut dire comme ça. On va s'imaginer, voilà, je pars en vacances, j'ai rien à réfléchir, je marche dans la rue, je vois la nature, la grandeur de Dieu, je me dis, tu t'imagines, Dieu est tellement grand, moi je suis tellement petit. Alors, je sens pas que ça a décollé en moi, que je me dis, waouh, j'ai envie de décoller. Mais je vais arriver à une théorie. Je vais me dire, puisque Dieu est tellement grand et moi je suis tellement petit, théoriquement, je devrais être maintenant en train de vouloir faire la volonté de Dieu. Mais c'est de la théorie. Est-ce que ça vous arrive ça des fois dans la vie? Tu réfléchis comment théoriquement tu aurais dû être. Alors t'as envie de dire, oui, mais théorie, on fait rien avec des théories. Il te dit, mais c'est pas rien ça. Le fait même que, ça nous arrive souvent, c'est par exemple une personne. Je vais vous donner un exemple. Le jour de Kippour, la veille de Kippour, d'accord? Pendant les Slichot, à quoi il réfléchit une personne? Il réfléchit comment il aurait dû être, théoriquement. Est-ce que ça sert à quelque chose ça? Pourtant, il sait très bien qu'il sera jamais comme ça. Il te dit, ben, ça sert à quelque chose. Même de savoir comment théoriquement les choses doivent être, ça laisse des traces. Parce que tu sais où est la vérité, où est la réalité. Donc là, il s'adresse à ce Benoni. Il lui dit, c'est pas grave, continue comme tu es, c'est très très bien ce que tu fais. Continue à réfléchir, même si tu sens que ça décolle pas. Même si tu sens que ça reste des théories dans ta tête, ça reste abstrait, c'est pas quelque chose qui te parle, c'est pas quelque chose qui te fait vibrer. Tu dis, continue à faire ce que tu fais, et toi, continue à développer, à penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, à penser comment tu es petit devant Akadosh Baruch Hu, et peut-être qu'un jour ça va décoller, et c'est sûr que ça finira par décoller. D'accord? Mais il faut continuer, développer, et avec le temps ça viendra. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans tout. Tout à l'heure, je parlais du Shabbat. Quand tu as une personne, par exemple, pour qui le Shabbat c'est une corvée, eh ben, essaye de réfléchir, de rajouter des petites touches qui vont faire que tu vas kiffer Shabbat. Je dis pas que ça marche du premier coup. Mais tu essayes une fois, deux fois, trois fois. Tu dis voilà, en théorie, Shabbat aurait dû être comme ça. En théorie. C'est pas grave. Dis que c'est en théorie. Mais avec le temps, à force de faire des théories, ça va devenir des choses concrètes. C'est comme ça que ça marche. Et tu dois t'expliquer. D'accord? On doit arriver à la conclusion. Rak, shebe al kochar, chayot ena betor aguf, ou tsrurot bo, ki almenut, chayut. Qu'en vérité, le cœur, il doit comprendre. D'accord? Le cœur, il doit comprendre. C'est écrit dans Pirkei Avot, dans chapitre 4, c'est écrit que tu dois savoir que tu vis contre ton gré. D'accord? Et tu meurs contre ton gré. Ça veut dire, c'est pas moi qui décide quand je vais mourir, et c'est pas moi qui décide quand je vais vivre. C'est pas moi qui décide quand je vais être mis au monde. Alors, il y a un commentaire de la Chassidoute qui dit comme ça. Et c'est d'ailleurs le commentaire de Rabbeinu Ovadia Bar Tanoura, il amène ça aussi, ce commentaire. Il dit comme ça. Il dit, ça veut dire quoi, la Korach HaTachai? La Korach HaTachai, ça veut dire que la vie de tous les jours, c'est contre ton gré. Ça veut dire que j'arrive à la conclusion avec le temps, que je me dis finalement, qu'est-ce que je maîtrise sur Terre? Qu'est-ce que je contrôle? Je contrôle rien. Mais vous imaginez si vous arrivez déjà à arriver à une conclusion comme ça. Si je réfléchis et j'arrive à arriver à une conclusion qu'en vérité, je gère rien du tout et que c'est Dieu qui gère tout ça. Si t'es arrivé à cette conclusion, mais c'est énorme ce que tu as fait. C'est-à-dire que déjà ton Yetzara, tu l'as déjà mis pratiquement par terre. Tu l'as fait comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. D'où l'importance de la réflexion. Ça ne viendra pas tout seul. Alors c'est vrai que Dieu, de temps en temps, vous savez, Dieu, de temps en temps, il nous envoie des Nissim. Et quand il nous envoie des Nissim, il nous montre qui est le patron. Il nous montre c'est lui le patron. Mais voilà, un S, c'est quelque chose que bon, maintenant ça m'a marqué, après c'est fini, ça ne m'intéresse pas. Après j'ai oublié. Mais quand je réfléchis, moi, à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et que je comprends qu'en vérité, je suis toute petite devant Akadosh Baruch Hu, et qu'en vérité, je comprends que je vis contre mon gré, et qu'en vérité, c'est pas moi qui décide si je suis en bonne santé, pas en bonne santé, si je gagne de l'argent, si je gagne pas de l'argent, si mes enfants sont en bonne santé, si ils sont pas en bonne santé. Quand je réfléchis, quand j'arrive déjà à cette conclusion, eh ben, il te dit ça, déjà, t'as mis un gros coup de fouille, etc. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 4. C'est quoi le mal? C'est quoi les tsara? Le tsara, il dit tout est pour moi. Donnez-moi tout. Tout m'est dû. Quand tu fais passer le message au Yitzhara, quand tu lui expliques, et quand je m'explique, quand tu lui expliques, en fait, c'est pas tu lui expliques, c'est quand je m'explique que non, rien ne m'est dû, tout est dû à Kadosh Baruch Hu, et que c'est pas moi qui décide ici, c'est pas moi le patron ici, et ben, si j'ai déjà réussi à me convaincre de ça, c'est déjà quelque chose d'énorme que j'ai pu faire. Même si dans la pratique, mon comportement n'a pas encore changé, mais réussir à arriver à une conclusion comme ça, qu'en théorie, ça devrait être comme ça, et que dans ma tête, j'arrive à la conclusion qu'en vérité, c'est Dieu qui gère tout. Même si ça reste abstrait, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire.
Même si c'est pas traduit par des mitzvot.
Exactement, oui.
Même si c'est pas traduit par une amélioration.
Oui, c'est déjà très 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 important.
J'ai réussi à penser ça.
Oui, c'est énorme.
Sincèrement.
C'est énorme.
Ça m'a éclairé 5 secondes de ma tête et après, c'est
reçu. Non, c'est pas que ça m'a éclairé 5 secondes de ma tête. C'est que je suis arrivé à une conclusion.
Où est le MS.
Et cette conclusion va m'accompagner toute ma vie.
Mais la conclusion, par exemple. La conclusion, on l'a. C'est pas que c'est une évidence, mais elle arrive comme une lumière et puis après, elle s'éteint.
C'est ça le problème. C'est que cette conclusion, en général, elle arrive dans un moment fort de la vie. Comme par exemple, quand il y a un miracle, ou quand par exemple, Dieu préserve, il y a un décès dans la famille. Alors bon, c'est là qu'on va réaliser qu'on maîtrise rien du tout.
Même ça peut arriver.
Mais là, on te dit, il ne faut pas attendre des événements graves comme ça pour comprendre ça. Il faut essayer de penser à ça tout le temps. De réfléchir comment en vérité on maîtrise rien du tout.
Moi j'ai une question.
Et ça en vérité, quand on réfléchit, on le voit tout partout, on le voit partout dans la vie ça. ce soit dans le monde des affaires, soit dans le monde des enfants, d'accord, partout, on comprend qu'en vérité, on maîtrise rien du tout. Et ça, il te dit, si l'Admor HaZaken, il te dit, si t'es arrivé à cette conclusion-là dans ta vie, sans qu'il y ait un événement majeur qui se passe, t'es arrivé à la conclusion que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le deuxième principe qu'il te dit. Et dis-lui, ne t'attends pas à vibrer comme t'aurais vibré pour le matériel, mais déjà, arriver à une conclusion logique de comprendre que tu es petit devant Akadosh Baruch Hu, c'est déjà quelque chose d'énorme.
Et si tu as compris ça, en dehors de ces moments extraordinaire que tu as écrit.
Oui.
Si tu as compris ça, mais qu'à la fin de cette conclusion, tu as compris, ça va. Ça s'est écrit à un moment dans ta tête, mais normalement, si ça s'est écrit, ça veut dire que ça t'entraîne vers une action.
Pas forcément. Parce que je ne sais pas encore comment le traduire par une action.
Je suis obligé de savoir. Si tu as compris que c'est pas toi le patron, c'est Akadosh Baruch Hu, si tu as la possibilité de faire un pied en avant parce que tu es en bonne santé pour le faire, c'est parce qu'il t'a laissé la possibilité d'être en bonne santé pour faire ce pied en avant. Ça veut dire que, tu sais, comme un automobiliste qui est sur la route, il ne peut pas bouger s'il a le gendarme qui est à côté de lui.
J'ai compris la question.
Alors ça veut dire qu'en réalité, c'est éphémère.
Je vais donner une réponse. Je pense qu'il peut illustrer ça. Regarde, une réponse très simple. En fait, imagine-toi par exemple quelqu'un qui a une affaire qui tourne, et que des fois il se met à rêver. Il se dit, ah, je peux imaginer un jour une chaîne de boutiques, un truc. Il rêve, tu vois. C'est de la théorie, tout ça. Est-ce que ça sert à quelque chose qu'il fait, ce rêve-là? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien?
Oui, il a l'ambition.
D'accord,
bien l'ambition.
Très bien. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? De toutes les façons, il y a Walou, il n'y a rien du tout. Dans la pratique de tous les jours, il reviendra avec le même boulot, le même truc et la même paye. Je te dis, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est de la théorie, demain, ce sera de la pratique. À force de faire de la théorie, ça deviendra de la pratique. C'est la même chose. C'est là le deuxième principe qu'il dit au Benoni. Il dit, on n'arrête pas de te dire, il faut réfléchir. Tu dis, écoute, je suis très conscient qu'au début, quand tu vas réfléchir, et ça peut durer des années comme ça, ça sera de la théorie. C'est-à-dire, tu vas dire, oui, je réfléchis qu'en vérité, en théorie, je suis petit devant un Akadosh Baruch Hu. C'est une théorie. Comme dans les affaires, c'est une théorie. Comment j'aurais voulu être? Mais il te dit, c'est pas grave. Continue à réfléchir à la théorie. Même si tu crois que c'est abstrait, que c'est pas concret, que c'est la théorie, continue à réfléchir. Parce qu'à force de réfléchir à une théorie, la théorie finira par se concrétiser. C'est ça le chidouche qui te dit ici. Continue à réfléchir. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Tu sais, il y a des gens qui sont très terre à terre, très pragmatiques. Ils disent, mais à quoi ça sert de réfléchir à des choses qu'on n'a pas? Tenez, il te dit non. Et tu dis, dans le service de Dieu, vas-y, développe.
Par exemple, moi, je me mets là, dans cette position-là. Je comprends à peu près tout ce que tu me dis, ma position par rapport au reste, par rapport à lui. Et je comprends que je ne peux pas bouger d'un coup.
Est-ce que tu te vois, par exemple, un jour...
paralysé, gelé.
Est-ce que tu t'imagines, par exemple, un jour, ouvrir une page de Gemara et descendre la page de Gemara tout seul?
Même pas, ouais.
Pourquoi?
Pourquoi? Ben, c'est pas possible.
Pourquoi c'est pas possible?
Je sais pas. C'est pas
possible. Mais pourquoi t'as pas l'ambition de ça?
Je suis pas capable.
Pourquoi t'es pas capable?
Parce que je suis pas capable.
C'est impossible.
Seul, le soir, la nuit.
T'es quoi?
Je suis un brel.
Chassé shalom. Alors, si t'as besoin d'être rassuré, voilà, je pense qu'on peut tout signer sur un papier, t'es pas brel.
Voilà. Non, mais honnêtement, je peux pas. C'est pas possible.
Non, mais faut avoir la culture.
C'est pas grave.
Mais faut avoir mais la pas... culture. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui
est pas grave.
En sixième.
Mais le fait même d'avoir la théorie, de te dire. Alors, le fait même d'avoir la théorie, de t'imaginer qu'un jour, j'aurais pu être comme ça, j'aurais voulu être comme ça, même si toi, d'abord, tu peux y arriver, peut-être qu'un jour tu y arriveras, et on sait jamais, d'accord? Et même si toi tu n'y arriveras pas, d'accord, tu pourras encourager ton fils à être comme ça. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est pas si abstrait que ça. C'est quelque chose que tu as réfléchi. Et plus tu réfléchis à une théorie, et plus ça prend forme. C'est ce que tu dis ici. Il te dit que plus à force de réfléchir, qu'en vérité je maîtrise rien, et c'est Akadosh Baruch Hu qui maîtrise tout, et que c'est lui qui gère, et celui qui maîtrise, j'arrive à ces conclusions, et que finalement, de la théorie après, ça devient progressivement de plus en plus en pratique. C'est quoi la pratique? La pratique, c'est la religion. Mais tout a démarré par la réflexion.
Mais l'amour de Dieu n'est pas suffisant.
Non, l'amour et la crainte. La plus que ça, la crainte et l'amour.
Même, est-ce que, même la crainte et l'amour de Dieu, je parle de Dieu à Akadosh Baruch Hu, c'est pas suffisant parce que je peux aimer Dieu et quand une avéra se présente à moi, je dis c'est pas Dieu qui interdit, c'est les rabbins.
Ouais, bon, ça c'est de mauvaise foi.
Dans quoi?
Et alors les rabbins, c'est pareil, non?
C'est pas pareil. Il faut avoir l'amour des rabbins aussi.
Ce même Dieu en qui tu crois et qui a été mis dans la Torah.
Ça, c'est toi qui le dis, Mazi.
T'as donné une mitzvah qui est écrite dans la Torah.
C'est toi qui dis.
Qui croit la charité.
Moi, je dis que le rabbin, non, il a dit ça de sa propre tête. C'est pas le bon Dieu.
Ok.
Et c'est ce qu'il a dit, le rabbin.
La Torah, elle t'a dit.
C'est pas enregistré.
Ouais,
d'accord.
C'est
je pense pas ça, attention.
Quoi
hein.
C'est un pic. C'est enregistré. La Torah, elle te dit, c'est écrit. C'est écrit, Vasita qui croit la charité. Ce même Dieu, il t'a donné une mitzvah et il t'a dit, tu feras ce que le sage ordonne.
Oui, mais mitzvah. Il n'a pas dit quel sage.
Quoi?
Il n'a pas dit qui est sage. Okay, ouais. Toi, tu me dis que Rabbi est sage. Peut-être qu'il y a un autre Rabbi qui est sage.
Ok, bon, pas très bien. Il y a une tradition, comme partout, il y a une tradition.
D'ailleurs, là, c'est pas pour rien qu'on dit comment dit on arrive à Dvekut Bashem.
Qui a décidé que 1 plus 1 est égal à 2, peut-être que 1 plus 1 est égal à 3.
C'est vrai? Merci.
Peut-être. C'est possible ou pas, monsieur Benidin? Qui a décidé qu'il y a 24 heures dans une journée, peut-être il y a 26 heures? Qui a décidé qu'il y a 7 jours dans une semaine, peut-être il y a 5 jours? Qui a décidé?
Il y a 13 mois.
Il y a 13 mois? Voilà.
La preuve, il y a 13 mois.
Fonctionnaire.
Il y a un truc que je voulais te demander.
D'accord, oui. Mais c'est un cadre.
Au niveau de la réflexion et du reste. Moi, par exemple, avant, je faisais Moi, j'ai un esprit mathématique. Oui. Avant, j'aimais bien étudier la halakha, etc. Parce que pour moi, c'était très parlant. Et c'est du concret. Tu apprends par exemple que Srita c'est assour, donc tu sais qu'on est bon, tu vas pas les soirées. Tu rentres chez toi, ta femme elle dit qu'est-ce que t'as appris, tu dis ah, tu sais l'éponge, le Shabbat, attention, il faut la changer, j'ai appris ça, je suis content, j'ai le sentiment d'avancer.
Oui.
La première fois que je suis venu à un cours de Tania, j'étais au cours et j'ai bien aimé comment tu l'as présenté, etc. Et j'ai dit ça, c'est pas du tout fait pour moi parce que j'ai un esprit mathématique et penser à la grandeur de Dieu, je dis bon, c'est peut-être bien pour certains, pour ceux qui aiment la philo, etc., mais pour moi, pas du tout.
Oui.
Et effectivement, j'ai pas senti que ça m'a fait décoller. Bon, j'ai dit, je vais quand même insister pour voir et pas rester que sur un cours. Et bon, et finalement,
ah, t'as décollé.
Non,
ah,
c'est bien. J'ai décollé, c'est un grand
mal. Il a arrêté la Lara finalement.
C'est pas ma faute.
Non, mais j'ai senti que des fois dans la vie de tous les jours, du coup, tu te mets à penser justement à la grandeur de Dieu, à des trucs auxquels ça m'était parfaitement étrangère. Mais ma question est la suivante. C'est, j'ai pris mon exemple à moi, mais c'est valable pour plein de gens. Est-ce que, quand dans la Torah, il y a plein de thèmes, il y en a qui aiment la Gemara, la Halakha, le Tanya, etc., est-ce qu'il faut persévérer dans un thème que tu aimes? Entre autres, moi, j'aime bien la Halakha, donc est-ce que, au contraire, il faut que je développe et apprendre mieux le Mishnah Berurah et continuer là-dedans parce que c'est, entre guillemets, mon kiff et que ça se transforme en un très grand plaisir? Ou alors, d'un truc dans lequel pour moi en tout cas, je me sens pas doué du tout, ça veut dire dans tout ce qui est philosophie, réfléchir à ça. Est-ce que justement, je dois insister un peu là-dedans pour dégrossir cette grosse lacune? Exactement. Ou voilà.
C'est une obligation. Pour être un bon juif, t'es obligé d'étudier la chassidut.
D'accord.
Parce que la halakha, hein, c'est le mode d'emploi.
Ouais, c'est ça.
Mais pour avoir envie de suivre le mode d'emploi, il faut te booster. Et ça, c'est le tanya. T'es obligé de passer par là. C'est mon avis, hein. Moi, je.
Ouais, non, mais c'est parce que parce que ce que tu disais.
J'étudie beaucoup et je fais beaucoup de cours de halakha. Mais la halakha, c'est un mode d'emploi. Il faut déjà être sensibilisé pour comprendre pourquoi tu dois le faire. Pour vous avoir envie de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment penser à la grandeur de Dieu. Parce que c'est ça l'approche de Chabad. L'approche de Chabad, la chassidut de Chabad, c'est que tu dis, si tu n'as pas la réflexion, alors c'est machinal. On tombe dans le, rappelle-toi, dans le premier bénoni du cours de la semaine dernière. Celui que tout ce qu'il fait, dans le machinal. Et quand on va lui poser la question précédente, on va lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Il a rien fait. Il a fait tourner une machine qu'on lui a donnée. Il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que t'as innové? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. T'es né dans une famille religieuse, t'es resté religieux. Mazal tov. Bah, t'as rien fait. D'accord? T'as fait un effort une fois pour devenir Shomer Shabbat et Shomer Shabbat maintenant. Et après ça tourne. Non, ça marche pas comme ça. Il faut constamment apprendre à se dépasser et n'aie pas peur de vivre en théorie. Ça veut dire d'élargir nos horizons, même si au début c'est de l'abstrait, c'est pas grave. L'abstrait finira toujours par s'accomplir. Ça marche comme ça. Tu réfléchis à un projet, à force de réfléchir, et ben il finira par s'accomplir. Parce que progressivement après, comme tu réfléchis tout le temps, chaque fois que tu vois un petit détail qui t'amène vers ça, tu dis, ah, ça, ça peut m'aider. Ah, ça, ça peut m'aider. Et après, avec le temps, ça se construit, sans que tu te rendes compte. D'où l'importance, d'accord? L'importance capitale de la réflexion. Alors. Ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, Bezrat Hashem, mais ça je m'arrête ici maintenant. La semaine prochaine, on va expliquer qu'une des manières, d'attraper Akadosh Baruch Hu, si on peut appeler ça comme ça, et donc justement de vivre Akadosh Baruch Hu, c'est en étudiant la Torah. Alors il va donner plusieurs exemples très intéressants. Il va donner un exemple quand tu enlaces quelqu'un. C'est un exemple intéressant qu'il va donner. Comme par exemple, tu dis, bon, tu es quelqu'un, pour te convaincre que tu l'aimes, tu vas l'enlacer. Alors c'est un peu dur parce que normalement, j'enlace quelqu'un parce que je l'aime. Qu'est-ce que tu penses si j'enlace quelqu'un alors que je sens pas encore que je l'aime? Tu peux dire c'est hypocrite.
Il l'enlace pas.
D'accord? Mais peut-être, ce qui va se passer, c'est qu'en l'enlaçant, tu vas réaliser que tu l'aimes. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Alors, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ça va être la suite de ce qu'on expliquait maintenant.
Bon,
il va pousser. Il va pousser. Vous avez raison. Il va pousser plus loin ce qu'on expliquait maintenant. Et toujours dans ce deuxième principe qu'on parle au Bénédicte. Premier principe, c'est qu'il faut se battre. Deuxième principe, on l'a dit, c'est qu'il faut savoir que continue à persévérer, même si tu sens que ça décolle pas, même si c'est en théorie, continue à persévérer. Et il va lui expliquer comment en vérité, une des manières de persévérer, c'est d'avancer comme si de rien n'était. Ça veut dire de te la jouer. d'enlacer le roi alors qu'il n'y a rien. Et quand tu vas enlacer le roi, tu vas dire, mais attends, j'enlace le roi. Il va expliquer, hein, c'est quoi enlacer le roi? Le roi, c'est la Kadosh Bankrou, et la main droite, et la main gauche, et les mitzvot, et les positives, et les négatives. On va développer pas mal de choses. Mais il va t'expliquer que finalement, quand tu simules, hein, ça s'appelle simuler ça, quand tu simules, et ben avec le temps, donc mis à part, il y a deux choses. D'abord, ça peut être en théorie, et des fois, on simule. C'est-à-dire, tu fais comme si que t'es religieux, que tu y crois, alors que tu n'y crois pas. Et ben, il te dit, à force de simuler, tu vas finir par y croire. La force de simuler. Ça, c'est encore un deuxième point qu'on va voir la semaine prochaine. D'accord. Mais ça c'est encore une autre. Je m'arrête maintenant parce que c'est encore un autre thème complètement différent. Parce que très souvent il y a des gens qui vont te dire oui les religieux ils simulent. Il fait zerma et en vérité il a rien. On va voir l'importance de simuler. Qu'à force de simuler ça finit par être duré.
Alors il se piège lui-même. Je pense qu'au fait la seule façon d'aimer à Kadosh Baruch Hu c'est de bien sûr comme tu as dit de sechel réfléchir, mais au travers de la Torah.
Évidemment.
Quand tu prends un gars de l'EI qui se fait sauter à Kobané sur une position kurde, il adore Dieu.
Oui.
Mais il adore.
Donc c'est les deux. Donc il faut la théorie et simuler. Il faut combiner les deux.
Il faut réfléchir au travers de la Torah.
Donc la réflexion c'est le fait de générer une théorie et après une fois que j'ai généré la théorie. Il faut concrètement commencer à simuler. Même si je ne sens pas encore que ça me fait vibrer à 100%. Quand tu as la théorie plus simulée, eh ben, tu finiras par arriver à que ce n'est plus une théorie et que tu simuleras plus, ce sera du concret.
Qu'est-ce qui différencie l'amour de Dieu d'un juif et l'amour de Dieu d'un quelqu'un qui n'est pas juif? Il y a d'autres gens qui ne sont pas juifs qui aiment aussi Dieu. Mais ce n'est pas le même amour.
Oui.
Pourquoi eux se trompent et
nous non? Se trompent.
J'espère quand même.
Qu'ils sont bien.
De qui tu parles?
Ah, des gars, tous les gars qui vont se faire sauter dans des bus ou dans des machins par amour de Dieu.
Non, mais eux, ils font pas l'amour de Dieu. Enfin, bon, c'est pas de leur faute. C'est leur faute de ceux qui leur ont brûlé le crâne.
Eux, quand ils vont arriver là-haut, ils ont vraiment fait ça par amour. Qu'est-ce qu'il va leur répondre à Kadosh Baruch Hu? Il va leur dire quoi?
Parce que nous, on explique que donner sa vie pour Kadosh Baruch Hu, c'est pas mourir pour Dieu. C'est vivre pour Dieu.
Oui, d'accord. Ça, c'est... Mais pour... qui te dit que c'est nous qui avons raison?
Tu as raison, okay. Moi, je pense que j'ai raison.
Il y a une preuve qu'on a raison. C'est la Torah.
Okay, pour eux, c'est pas une preuve.
Non, mais parce que nous, on sait que c'est la Torah qui sont les voies de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie que la Torah.
C'est pas une preuve.
Parce que lui, il la reconnaît pas.
Lui, il la reconnaît pas, la Torah.
Donc, bon,
j'ai tout le monde se reconnaît la Torah.
Bah, non, il dit qu'un nouveau.
Il va nous enseigner un nouveau. Qu'on l'a trafiqué, qu'on l'a.
Non, il y a une nouvelle version.
Il y avait